Bonjour à toutes les amis. Avant de commencer, avant de répondre à ce message épinglé là, très intéressant, mais nous ne laisserons pas contaminer par la mauvaise humeur de certains et par la désinformation de certains. C'est intéressant parce que justement ici on essaie de se battre pour la qualité d'information. Manifestement, c'est quelqu'un qui n'a pas les bonnes informations, mais qui a quand même décidé de nous faire profiter de sa mauvaise humeur. Un avertissement, soyez prudents. Bah, il a beaucoup neigé, il a fait super froid, il a verglacé dans plein de régions qui ne sont pas habituées à ces frimas. Donc soyez super prudents, les piétons, les cyclistes. Dans les rues parisiennes ce matin, j'ai vu beaucoup de cyclistes sur des rues pourtant apparemment verglacées, quoi. Les cyclistes, les automobilistes, voilà. Donc soyez super prudents. Statistiquement, sur les 664 que vous êtes déjà, je pense qu'il y a des gens qui vont glisser aujourd'hui, qui vont glisser sur les trottoirs, quoi. Donc vraiment, faites attention. Les joggeurs aussi, ouais. Ce matin, j'ai emmené les enfants. Je ne suis pas une hater, je suis juste ça, abusé. On va te répondre, Moon Channel, dans un instant. Tu vas en prendre gentiment pour ton grade. Et puis, j'espère que ta réaction sera plus positive que cette agression gratuite et infondée. Tu vois, je vais t'expliquer dans un instant, mais je te mets de côté. Parce que cette mauvaise humeur ne doit pas nous contaminer. Et donc, soyez vraiment super prudents. Ce matin, en emmenant les enfants à l'école, j'ai glissé 3-4 fois, gentiment, alors que vraiment, pour le coup, je faisais super attention. Donc, vous voyez, super prudent, notamment les plus âgés, donc on va dire les plus de 20 ans, quoi. Hein, vous savez, après 20 ans, ça casse comme du verre. Hein. Hein. Je sais que on aime se raconter des histoires, on aime penser qu'on n'est pas vieux, on veut pas se voir vieillir. Bon, passer 20 ans, les gars, c'est le début de l'ostéoporose. Hein. Donc, la moindre glissade, ça va casser de partout, quoi. Donc, soyez bien prudents. Ah, ok, faites gaffe. Statistiquement, il y a des gens qui vont se faire mal aujourd'hui dans ce chat. Là, je vois, vous êtes 800 là. Il y a des gens qui vont se faire mal. Donc, soyez super prudents, quoi. C'est mon petit conseil de ce matin, quoi. Bon, comment ça va, vous ? Avant qu'on s'occupe de Moon Channel. Là. Je reste en télétravail du coup. Aldaren, très bonne idée. Les enfants m'ont quand même demandé ce matin si le verglas était un motif de ne pas aller à l'école. Malinx le lynx. Avec un petit sourire en deux. Un petit sourire au bord des lèvres en mode ça va pas marcher mais on essaye quand même, quoi. Shuga, le déj, ouais, chaud, le boulot, ouais. Oui, force. Pas de problème chez nous, pas de transport scolaire, pas de collège, pas d'école pour les enfants. Il est vilaine. Bah voilà, mes enfants auraient adoré être dans cette situation. La route aussi peut être très glissante, j'ai l'impression d'être en Formule 1 avec pneus hard sous forte pluie, me dit Philarman, qui est peut-être un fan de Formule 1. Les bus ne tournent pas dans le coin, les enfants ont pas. Alors moi j'ai la chance d'habiter pas très très loin de l'école des enfants, donc du coup on y va à pied. Et malgré tout, c'était un peu le... Enfin, on a une station de métro, on prend le métro vite fait. Et du coup, on n'a pas été impacté ce matin, quoi. Même si on reste chez soi, on peut toujours tomber. Oui, mais à la Ster, là, c'est autre chose, là. Là, si vous tombez chez vous, aujourd'hui, à votre domicile, hors verglas, là, c'est plus mon problème, quoi. Fais attention à toi, tu devrais passer en télétravail. Ce que je suis, ce que je fais. Uriel, on va se pencher sur cette épingle dans un instant. Notre société meurt de ça, en fait, de ces attaques gratuites et infondées. Mais on va rappeler combien on n'est pas sur X, justement ici, le réseau d'Elon Musk, l'ancien meilleur ami de Donald Trump. Ils sont un peu fâchés. Et on est sur Twitch et on essaye de faire différemment. Merci Pastradan pour le 12e mois. Merci CPTN Patate pour le Prime. Merci Marillion. Oh non, Marillion, fallait pas. Je suis pas sûr que Moon Channel méritait cet abonnement. Mais c'est super gentil de ta part. Merci beaucoup. Merci donc Diplomatico. Merci Bibiche pour le Prime. Merci Ludwig. Mistral gelé. Ici, il faut s'armer de courage pour la balade du toutou. Ouais, c'est... Mistral, ça nous emmène un peu dans le sud, ça ? C'est ça ? Au moins, vallée du Rhône, quoi. D'accord. Hier, je suis reparti à 15h du travail, je suis rentré à 17h45, 2h45 pour rentrer en 78. Pas mal. Pas mal, pas mal. Waouh! Le bonheur d'un streamer, c'est le chat, hein, vous le savez. Benamix, deux points, ouvrez les guillemets. J'aimerais bien une femme, une belle femme. Ah, je m'inquiète, tu vois, je me dis, c'est quoi ce message, quoi? J'aimerais bien une femme, une belle femme. On part sur un terrain. Quelle est la suite du poste? En fait, tout va bien. Mais quelle est la suite de la phrase? Donc, Benamix, deux points, ouvrez les guillemets. J'aimerais bien une femme, une belle femme qui glisse et qui me tombe dessus. Et là, l'histoire commence. Ça commence quand même comme un. Ça commence quand même comme un film pour adultes, ton truc là. Hein. Mais bon, ok, d'accord, ok, ça passe, ça passe. Ouh. Non, ça va, ça va. Yiflin dit Benamix, allô les modos, ça va en vrai, ça va, ça va, ça va quand même. Est-ce que quelqu'un veut. Ah, il y a un appel qui est lancé par Noctali dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la place de Noctali à son boulot contre un paquet de Chocomont? Est-ce que quelqu'un est partant? Ou un nanar de Noël? Ou. Oui, j'avais l'esprit mal placé. Heuriste Mac Useless Noble, ou Noble, je ne sais pas si tu le prononces en français ou pas. Oui, ou un nanar de Noël. Enfin, nanar de Noël, oui, c'est le petit film de Noël, le petit téléfilm de Noël tout mignon, là. Avec toujours la même histoire, tu sais. Elle ou il, ça dépend comment on débute le film. Doit aller dans un endroit où il n'est jamais allé, où il n'est pas allé depuis super longtemps, genre le lieu de son enfance, il vient de perdre son boulot, ou alors il y a eu un décès dans la famille, bref, et on le sort de son, on le sort de son cadre habituel, et puis là-bas, voilà, alors que il désespérait de trouver l'amour, il rencontre une personne très éloignée de lui, et pourtant la magie opère et le charme, et bim! J'adore ces histoires, moi. Moi, j'aime bien moi, ces histoires. Voilà, au début, ils s'aiment pas, mais ils finissent ensemble, exactement. En général, ça commence par un quiproquo. La mère Noël et les sept nains. C'est un film, ça, Sugar? Alors moi, dans ma jeunesse, j'ai entendu parler d'un Blanche-Fesse et les sept mains. Je sais pas si c'est le même film. Mais je crois que ce film a vraiment existé. Merci, Sickness, pour le 16e mois. Merci, J'adore, pour le 2e mois. Je pense que vous connaissez, c'est un classique. Sugar me dit, c'est même réalisateur. C'est une info, ça? C'est une info ou c'est une info type Moon Channel qui attend son tour là. J'espère que tu es toujours avec nous. C'est la version remasterisée? Ok, donc c'est le même film? Ok, d'accord. Merci, merci artiste pour le soutien. Oh, merci Crispy Burger. Allô, je te connaissais d'avant, mais j'ai découvert la matinée Étienne hier en VOD sur YouTube. Bah, merci Mathieu. Mathieu qui gère la chaîne YouTube et qui est avec nous dans le chat, je l'ai vu ce matin. Et c'est un banger, me voilà de bon matin. Merci Mathieu. Et merci, on t'accueille, on est très heureux de te retrouver en direct. Je vous quitte à 12h15 ce matin, j'ai un rendez-vous à 12h30. Mais on va avoir quasiment 3 heures d'actu. On va bien sûr reparler, notamment du Venezuela. Cours annulé pour Epix. On est très heureux de t'accueillir. Alors, Moon Channel est soit très en colère, soit ivre. Voilà. Et après son premier message qui est épinglé, vous l'avez toujours là-haut, là. Son dernier, c'est La matinée, Étienne. Tu viens de comprendre le jeu de mots, c'est ça? Et un petit rire. Qu'est-ce qui va pas, Moonchannel? Parle-nous, Moonchannel. Moonchannel s'est levé du mauvais pied, a peut-être glissé sur une plaque de verglas avec ce mauvais pied. Dis-nous en plus parce que tu commences à nous intéresser très fort là. Non, je trouve ça nul. Ouais, effectivement, Moonchannel s'est levé du mauvais pied. Bon, c'est l'instant de Moonchannel. Donc, Moonchannel a épinglé un message. Enfin, j'ai épinglé un message de Moonchannel qui est un des premiers messages dans ce chat, qui était donc. Je cite cette personne. Pourquoi mettre des pubs quand on gagne autant sérieux? Alors, par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on répond? Principe élu, il n'y a pas de pub. Voilà, c'est la réponse. Sur cette chaîne, il y a zéro pub. C'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les pubs qu'un streamer pouvait enlever. La seule pub que tu te prends, c'est celle qui est impossible à enlever qui est le pré-roll, qui est le pré-roll et qui est imposé par Twitch et que tu ne peux pas enlever. C'est le pré-roll obligatoire. Voilà. Je ne suis même pas sûr que le streamer gagne de l'argent sur le pré-roll, peu importe. Donc, mon revenu mensuel pub Twitch, il est proche de zéro. Et je pense que je suis un... Je pense qu'on n'est pas très très nombreux parmi les, comment on dit, les affiliés, enfin les partenaires, à avoir enlevé les pubs parce que en fait, quand tu fais un peu de vues, on se fait pareil. Et ben pour sa raison, ça fait des sous en vrai. Voilà. Et moi je l'ai enlevé à 100% depuis longtemps déjà parce que je trouve que ça abîme l'expérience de live, c'est-à-dire toutes les demi-heures ou toutes les je sais pas combien, t'as un espace pub en pleine partie ou en pleine revue de presse. Voilà. Donc moi j'ai enlevé tout ça pour que vous ayez la meilleure expérience de viewing et je me prive d'un revenu tous les mois pour le faire. Voilà. Voilà. Et donc la pub que tu as pris en arrivant, c'est la pub du pré-roll. Voilà. Fugu me dit, alors Epix me dit, Fugu dit qu'il gagne 10K par mois grâce aux pubs. Moi, je pense que je gagnerai pas autant, mais oui, on parle de quand même de milliers d'euros. Donc ça, je le prends pas parce que je trouve que ça abîme en fait l'expérience de viewing. Je viens d'un monde, la télé et la radio, où parfois il y a beaucoup de pubs et les gens s'en plaignent quoi. Donc je l'ai enlevé et la seule pub que tu peux prendre, c'est celle du pré-roll que je peux pas enlever. Je crois pas qu'on touche là-dessus d'ailleurs. Et que toi tu peux enlever en t'abonnant. Voilà. Donc quelqu'un a abonné la personne tout à l'heure, je pense qu'il fallait pas en vrai. Domingo parlait de 8K. Ouais, mais Domingo fait des stats que je fais pas. Hein. Donc on parle pas de 8K pour moi. Voilà. Donc sauf à t'abonner, tu prends cette pub de pré-roll quoi. Tu peux enlever le pré-roll, mais tu dois mettre d'autres pubs pendant le stream en échange, voilà. Ouais, bah moi, je préfère qu'on... Ah ouais, donc t'es obligé de mettre de la pub. Ouais, c'est nul, ouais. Voilà. Bon, après, il y a les gens régulièrement qui me disent de mettre de la pub quand même, que ça n'abîme pas tant que ça et ça me ferait des revenus. Bon, en vrai, moi, je préfère ne pas vous en mettre. Le jour où je serai vraiment à la rue et que j'aurai besoin de sous, je vous le remettrai, quoi. Si toi tu balances une pub pendant un instant mort, pause où tu vas chercher ton café par exemple, ça retire tous les pré-rolls pendant une heure. Ouais, mais on fait quasiment plus de pub ici, de pause. Ok. Donc alors du coup, qu'est-ce que répond Moon Channel à tout ça? La personne énervée là qui voulait nous faire partager ses mauvaises humeurs. Rien. Ah, c'est embêtant. Cette personne était très 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 bavarde, mais là il n'y a plus de réponse. Ok. Allez, parti. Ah. OK. Il est abonné? Non, c'est quelqu'un qui du coup lui a offert un abonnement il y a quelques minutes là. Je trouve ça trop gentil en vrai. Ouais, parti. Non, c'est pas un troller, c'est quelqu'un de mauvaise humeur. Et moi, je suis allé voir l'historique, du coup. C'est quelqu'un de mauvaise humeur, c'est quelqu'un qui a voulu nous partager cette mauvaise humeur et qui était mal informé, ce qui fait quand même deux défauts, ce qui fait beaucoup de bon matin. C'est quoi ce rendez-vous à 12h30? C'est un rendez-vous d'ordre comptable. Enfin, autant dire passionnant. Merci Darsaliot pour le soutien. Bon, comment ça va vous? Ça prépare le... Non, oui, non. J'ai vu comment... Dans le chat, j'ai vu comment peut-on être de bonne humeur avec toute cette neige. Ok. Et je vois un comment on peut être de mauvaise humeur avec cette belle chevelure. Ça, par contre, c'est un mensonge. Ouais. Merci, tes boycotts. Est-ce que tu veux dire à ton comptable qu'à cause de Moon Channel, tu vas remettre les pubs? Non. Merci Eternititi. Merci Gigantiseur. Ah non, Gigantiseur, c'est pas un pseudo, c'est Gigantiseur une émoticône, c'est une phrase de Twitch. Putain, ça ressemble à mes merci. Merci Nightbot, il y a 5 ans ça. Merci Nightbot pour le travail. Je viens de remercier. Merci Gigantizer. En fait, c'était Gigantizer et Mnemonicone. C'était des beats de danse nuit. Putain, la vache, j'ai pas beaucoup changé hein, depuis 5 ans. Ok, tout va bien. Merci à AC59370. Merci pour le soutien. En fait, oui, pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à streamer, sur un live, à un moment, j'arrivais et quelqu'un me dit: Ah, mais il y a pas de modérateur. Et puis j'avise le chat et je dis: Ah, si, si, il y a Nightbot. Et je pensais que c'était un modo en chair et en os, parce que je n'étais pas encore très, très, très au fait de tout ça. Et au fait, merci, j'ai dû dire un truc comme: Merci Nightbot, bonne journée, quoi. Mais premier degré, quoi. Pas en trollant, quoi. C'est resté. Poum me dit, je vais avoir mon premier rendez-vous comptable de fin d'année pour ma boîte Ever. En vrai, c'est passionnant. Oui. Si, en vrai, c'est intéressant. T'es pas stressé de voir ton comptable? Non, ça va. Si, je vais... Il va me demander des nouvelles. Je vais dire, bah, je sais pas, mes stats de mes stream gaming sont en train de s'écrouler. Donc, je pense qu'il va falloir trouver d'autres activités. Hein. Je pense que je vais lui raconter ça. Je vais dire ça, le matin, les gens sont toujours là. Les gens sont sur la matinée Étienne. Il y a une vraie envie de s'informer, de comprendre le monde dans lequel on vit. Par contre, là, au niveau du gaming, il va falloir faire autre chose. Hein, parce qu'il y a plus, la salle est en train de se vider, monsieur le comptable. Alors, je vais peut-être lui raconter ça. Ouais. Mais on va trouver d'autres choses. Le comptable qui va te dire de mettre les pubs. Non, ça abîme l'expérience de viewing. Attends, Sugar a retrouvé le clip? Attends, Sugar a retrouvé le clip? Attends. De Merci Nightbot. Incroyable. Est-ce que j'ai vieilli d'abord? C'était il y a 5 ans. 2021. Attends. Il est en x2 là. Hop. Pourquoi c'est dans une langue asiatique? Tu nous regardes dans quelle langue, Sugar? Il y a deux grands événements à minima en matière de son. C'est trop faible le son là. Hop. Attends, il est où le son là? Là. Pourquoi c'est un... Oui, c'est un quoi? C'est le coréen? C'est le japonais, c'est quoi? J'étais encore chez moi, ouais. J'étais dans mon chez moi. Alors, qu'est-ce que ça raconte?
Il y a deux grands événements à minima en matière de sport. Il n'y a pas de modo? Je sais pas. Il n'y a pas de modérateur? Pourquoi c'est un petit peu chaud dans le chat. J'ai prévenu cet après-midi. Si, ils sont là. Salut Nightbot. Merci à tous. Merci d'être là.
C'est totalement premier degré. C'est-à-dire que c'est totalement premier degré. Il n'y a pas de modo? Si, ils sont là. Merci Nightbot. Ah, vous le connaissez bien? Ah ouais, c'est mythique. Ah ouais, mais je le dis vraiment très sérieusement, quoi. Vous remarquerez que il n'y a pas beaucoup plus de cheveux ou de moins de cheveux. Ça, c'est intéressant aussi. Mais ils sont clairement plus noirs, plus sombres. Salut Nicolas, tu vas bien? Regardez. En fait, j'en ai pas perdu tant que ça en 5 ans. Là. C'est à peu près pareil. Mais par contre, ils sont beaucoup plus noirs, quoi. Beaucoup plus sombres. Ouais. On va se le refaire quand même, hein, parce que c'est quand même mythique. Hein. Ouais, c'est pour ceux qui l'auraient. Donc c'était. Voilà. Par contre, j'ai pas vraiment vieilli, je pense. Nicolas, mais tu sais que je suis jamais allé en Turquie de ma vie. Non, parce que. Parlons sérieusement. Moi, j'en rigole beaucoup, hein, la calvasse, le crâne qui s'éclaircit, les cheveux tombent. Hein. Mais pour le coup, je suis jamais allé en Turquie de ma vie. Quoi. Alors que je rêve d'aller à Istanbul, par exemple, qui est sur un plan historique, civilisationnel, et une ville que je trouve fascinante. Quoi. Voilà. Réécoutons le Merci Nightbot.
Pourquoi c'est un petit peu chaud dans le chat? J'ai prévenu cet après-midi que si ils sont là, salut Nightbot, merci à tous, merci d'être là. Et ils sont juste top. Mais en même temps, vous êtes une communauté tellement cool que...
Merci Nightbot. Les modos sont là. Merci Nightbot. Dinguerie. Alors oui, c'est effectivement mon Twitch, moi, est en français. Et par contre, il faut m'expliquer, je suis allé vérifier, pourquoi celui de Sugar est en coréen ou en japonais, je ne sais pas. Ça, c'est un vrai mystère. Merci Romano. Merci pour ton gentil message. Merci et tes boycotts encore. Merci. Est-ce que dans l'extrait, après, ils te disent que c'est pas un modo? Oui, après, ils m'expliquent. Ah, j'ai repris le lien sur Internet. Quoi, il y a des gens en Asie qui s'intéressent à ça? Bouh, quel monstre. Tu devrais... Alors moi, je suis toujours en recherche de nouvelles idées de stream. Ah, pour remplacer les streams de gaming, notamment, parce que... Hé, hey, crack dur! Comment vas-tu? Parce que bon, comme il n'y a plus personne sur les streams de gaming, on va arrêter de faire du gaming, on va faire autre chose. Et il y a chacun qui dit, tu devrais lancer un Sam versus le monde. C'est quoi? C'est moi dans une cage MMA et je prends des gens et je leur tape dessus, c'est ça? Des personnes âgées, du coup? Et à chaque fois, tu invites un streamer que tu penses pouvoir gagner sur un jeu, le concept pourrait être cool en vrai. Ah, c'est marrant, ouais. Après, des jeux où je pense battre d'autres streamers, va pas y en avoir vite. Heureux d'avoir tes nouvelles créatures, c'est cool. Allez, je vous lis un petit peu, puis on va démarrer. Je suis un peu long, ça va, 25 minutes. Je vais me prendre le temps le matin. Tu chauffes pas beaucoup chez toi ou tu es un peu frileux? Je ne chauffe pas. Kekra. C'est-à-dire que je suis dans mon studio de stream et je le chauffe pas. Parfois, j'ai un petit chauffage d'appoint que je mets quand vraiment c'est toi. Mais là, je chauffe pas. D'où le sweat. Bon, il fait pas trop froid en vrai. Selon Antoine Daniel, tu es streamer avec un S majuscule. C'est un très gentil mot, ça. Tom Tom. Antoine Daniel, un des plus grands streamers français, aurait dit ça de moi. C'est tu me trolls pour me faire une fausse joie ou il l'a vraiment dit? Parce que s'il l'a vraiment dit, je me mets tout nu. Hein. Au vu de mes stats. Non, mais il a vrai. Mais c'était gentiment dit ou pas? Parce que si c'est gentiment dit, je me mets tout nu là. Et c'était très gentil. Ah bah, ça me fait bien plaisir. Alors, Antoine, moi j'aimerais beaucoup le recevoir dans Ça me plaît. Bon, après, c'est quelqu'un qui est très occupé. Je crois qu'il n'est pas à Paris en plus, Antoine. Hein. Il a dit un truc comme ça, il en parlait avec Étoile. Oh, c'est gentil. Et en fait, Antoine, c'est quelqu'un Alors, je rêve. Rêver de recevoir quelqu'un, c'est toujours un peu exagéré, mais c'est vraiment une des personnes qui je trouve, manque à la collection de Ça me plaît, quoi. Clairement. C'est vraiment quelqu'un de super important dans l'histoire de Twitch, quoi. Donc, je crois qu'il n'est pas à Paris, hein, je crois qu'il est à Montpellier. Il stream beaucoup, il fait beaucoup de choses. Et je sais qu'il a un emploi du temps de fou. Et je suis en contact avec lui et avec son équipe pour essayer de caler un simplet un jour. Alors, régulièrement, enfin, j'ai essayé plusieurs fois, même sur d'autres trucs, vous savez, les jeux de culture générale que j'organise parfois de temps en temps avec des invités. Souvent, j'invite Antoine. Après il est très peu disponible. Mais régulièrement, à chaque fois que j'ai un nouveau truc, j'envoie un mail à son équipe. J'essaie de le faire venir et un jour on va y arriver quoi. Ouais. Vous vous entendez bien j'imagine. En fait on s'est jamais trop parlé, on ne fait que se croiser, notamment aux The Event, voilà. Mais moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Voilà. Étoile qui surkiffe de te voir comme ça grâce à lui. Bah, c'est grâce à Étoile. Hein. Ouais. Ouais. Et c'est un peu de React, non, remake. Enfin, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, mais je ne me vois pas. J'ai jamais eu d'attrait pour le React, en fait. D'abord, React quoi? Et. Je ne suis pas attiré par ça. Mais après, peut-être que je changerai d'avis en trouvant un contenu que j'ai envie de réacter un jour. Hein. Merci Sugar, trop gentil. On a fait un peu de règles de questions pour un champion ici, c'était pas foufou. C'est pour ça qu'on a arrêté. Moi, j'aime bien essayer des choses, mais je n'insiste jamais quand la commu accroche pas trop, quoi. Premier degré, tu vas arrêter le gaming. En fait, c'est à l'image de ce que je viens de vous dire. Autant il y a du monde le matin sur la revue de presse, et ça me réjouit vachement, et je trouve ça super cool. Autant c'est vrai que il y a, pour dire les choses vite, depuis, on va dire, quelques mois, une baisse tendancielle, alors pas du taux de profit, comme disait Marx dans Le Capital, qui est une notion essentielle du marxisme et de Das Kapital, de Karl Marx, qui est la baisse tendancielle du taux de profit des sociétés capitalistes qui doit mener à la révolution marxiste, communiste. Pardon de vous faire un petit cours rapide d'histoire des idées politiques, que certains responsables, d'ailleurs... non, je pars sur autre chose, là. Et donc, mes baisses tendancielles du nombre de viewers, ouais, très très fortes, ouais, sur le gaming. Alors, moi, j'ai toujours autant de plaisir à le faire, mais je me dis, si entre mon envie et le public, il n'y a pas de rencontre, après, je peux partir sur autre chose, quoi. J'ai fait ça toute ma vie, moi, de bouger, de changer, de tenter des choses, quoi. Tu saignes du poignet gauche? Non. Ah non, non, c'est un petit cœur. C'est un petit cœur. Merci, Salty Rasputin. Espèce de goat avec ton pseudo que j'adore. Ah oui, le plaisir du jeu est toujours là, bien sûr. Bon, en fait, aujourd'hui, je stream du gaming essentiellement pour me changer les idées, quoi. Mais disons que c'est plus un moteur de croissance pour la chaîne, quoi. Non, le plaisir est toujours là, ouais. React de vidéo politique avec les débats présidentiels à venir. Ouais, pas bête. Trente et une minutes, ça va falloir commencer la revue de presse. Hein. Samuel, je veux pas être chiant, mais t'es pas chiant. Mystéro, je lis les journaux vers quelle heure? J'y vais là. En général, je fais une demi-heure d'intro. Là, je suis à 31 minutes parce que j'aime bien parler avec le chat. Mais on va y aller là. C'est Étoile hein, qui m'a. Étoile, il fait des longues intros comme ça, bien plus longues que moi, je crois. Et il a déteint sur moi. Je trouve que c'est très bien d'échanger avec la commu. Ah, c'est intéressant ce que dit Lilia Haute Nature. Merci. Ok, on va y aller. On y go? Vous êtes prêts? Bientôt l'intro plus long que la revue de presse. Bon, on va faire... Non, on va faire 2h, 2h15 de revue de presse, là. Non, pas encore. Oligo, c'est votre go? Prêt? Parti? Allez, c'est parti. Petit sommaire, hop. Le sommaire de Boubou, hop. Il est là. Ok, ouais, c'est bien. Alors, beaucoup d'écho ce matin. Hein, selon les jours, il y a des journaux qui sont plus ou moins... Tiens, voilà. Mais il a disparu. J'ai réussi à l'effacer en bougeant le clavier. Je vais vous le remettre. Copier. Alors, il y a des journaux qui sont parfois surreprésentés. Non, non, on n'a pas commencé encore. Il y a des journaux qui sont parfois surreprésentés. Parfois, il y a des jours, je vais vous lire 3 articles dans Le Parisien et parfois, 0 article dans Le Parisien. Parfois, je vais, pendant plusieurs jours, je vais rien vous lire dans l'Opinion ou rien dans Le Figaro parce que c'est très subjectif, il n'y a rien qui m'intéresse. Alors qu'il y a sûrement des trucs passionnants, mais... Et là, ce matin, c'est une journée des Échos. Regardez le logo des Échos qui est extrêmement présent. Je lisais la presse ce matin et je trouvais que il y avait vraiment beaucoup de Venezuela et qu'en dehors du Venezuela, il n'y avait pas tant de choses que ça. Voilà, jusqu'au moment où je suis arrivé sur les Échos. Et les Échos, il y avait toute une série d'articles sur plein de sujets extrêmement différents et qui m'ont permis de parler d'autres choses que le Venezuela, même si on va passer au moins, je pense, une petite heure sur le Venezuela. Ok ? Allez, je me cale sur l'iPad. Il est prêt et c'est parti. Let's go. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée, Étienne. Très heureux de vous retrouver. On est ensemble tous les matins, du lundi au vendredi. Je fais ça parce qu'en fait, quand je pars en podcast audio l'après-midi, ben c'est là que ça coupe. C'est là que Vincent y coupe. Donc je fais genre ça commence. Je vous retrouve tous les matins en live sur Twitch, c'est en replay sur YouTube, AJ+1, et c'est en podcast audio tous les jours à partir de 15-16h, posté par l'ami Vincent, ami qui nous écoutait en podcast et vous êtes super nombreux. On est très heureux de vous avoir avec nous. Voilà, vous avez le son, vous n'avez pas l'image, mais je vais essayer de vous décrire au mieux ce qu'on va... Alors, ce qu'on va lire, c'est assez facile, mais ce qu'on va voir aussi, parce que parfois, il y a des photos. De quoi allons-nous parler ce matin ? On va commencer en ce mardi 6 janvier, d'abord par le sommaire. Ceux qui ne peuvent pas rester 2h30 avec moi, vous aurez l'essentiel de l'actualité en quelques minutes. Vous n'aurez pas les analyses, les interrogations, les débats avec le chat, mais vous aurez l'essentiel de l'actu. On commence avec quoi ? Gwalen, les podcasts, il y a sur toutes les plateformes de podcasts, c'est du Apple Podcast, du Spotify, du Deezer, de partout. On va évidemment reparler beaucoup du Venezuela. Je vous ai fait une spéciale, une matinée Étienne spéciale Venezuela dimanche matin. On en a parlé longuement hier lundi. Et on en reparle ce mardi matin. C'est la une de la Croix, le nouvel impérialisme américain. Donald Trump entend régir à sa guise l'ensemble du continent américain qu'il revendique comme une chasse gardée. Le dossier de la Croix est celui qui me semble le plus complet, le plus pédagogique sur cette actualité. Il y a des articles de partout. Hein. Avec un Donald Trump qui se voit, dit le journal, en nouveau patron des Amériques. Hein. On le voit ici dans Air Force One, l'avion de la Maison Blanche. Depuis cet avion où il a fait une blague que j'ai vu se promener sur Internet, sur les réseaux sociaux, hier, où il se moquait du Groenland et du Danemark en disant, parce qu'il reproche au Danemark de ne pas protéger suffisamment le Groenland, notamment de présence russe et chinoise, si j'ai bien compris, et il s'est moqué du Danemark en disant, ah mais vous voyez ce qu'il a fait, est-ce que vous avez vu ce qu'a fait le Danemark pour protéger davantage le Groenland? Je crois qu'ils ont investi dans un nouveau chien de traîneau ou un nouveau traîneau. Voilà, petite blague de Monsieur Trump depuis Air Force One. C'est ça dont tu parles ? J'ai dit bonjour Sam, est-ce qu'il y aura un petit mot sur le Groenland et le Danemark vis-à-vis des mots de Donald Trump ? Voilà. On va surtout parler du fond parce que les blagues de Trump, on s'en fout un petit peu. Mais par contre, les ambitions du président Trump sur le Groenland, ça nous intéresse. Donc, gros dossier dans la Croix. Vous avez un économiste qui est spécialiste des matières premières, Philippe Chalmin, qui dit « Nous sommes dans l'irrationnel trumpien ». Beaucoup d'articles ce matin, vous voyez, donc La Croix en parle, Les Échos en parle, Libération, Le Figaro en parle, Le Monde en parle, L'Humanité en parle, tout le monde en parle. Dans Les Échos, on a quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Vittori, chroniqueur aux Échos, qui nous donne les 3 vraies raisons de Trump pour cette opération au Venezuela. Il a parlé de lutte anti-drogue, le président vénézuélien est poursuivi aux États-Unis en attente de son jugement pour narcotrafic. Jean-Marc Vittori nous donne les 3 vraies raisons de cette opération. Hémisphère occidental, accès aux ressources naturelles et politique intérieure. C'est la une de Libé. Et c'est la une de Libé. Rendons à César ce qui est à César, à Libé ce qui est à Libé, qui a donné le titre de ce chapitre Venezuela ce matin. Et c'est la question que beaucoup se posent. Où Trump s'arrêtera-t-il ? Groenland, Colombie, Cuba. Le coup de force de Trump au Venezuela laisse craindre d'autres opérations militaires déstabilisant davantage l'ordre international. Donc, puisque Libération nous emmène sur l'après, qu'est-ce qui pourrait se passer après? Eh bien, on a au Groenland la crainte d'un scénario vénézuélien. En Colombie, le président Gustavo Petro qui ne baisse pas les yeux. Il a un ton même assez, assez martial, vous le verrez, par rapport à Trump. Il dit « ça fait longtemps que je n'ai pas porté une arme, s'il faut, j'irai me battre ». Vous avez aussi Cuba. Voilà, vieille obsession et prochaine cible, s'interroge Libé. Et puis la situation au Venezuela avec la marge étroite de la vice-présidente propulsée à la tête du pays, Delcy Rodriguez. Donc voilà pour cette grosse page Venezuela-Trump. Je pense que cette information est suffisamment importante pour en parler longuement comme nous l'avons fait dimanche et que nous l'avons fait hier. On en reparle ce matin, mais l'actualité se poursuit. Ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de la crise politique en France et de où on en était du budget. La réponse est nulle part, hein. C'est pour ça que je ne vous en parle pas tous les jours. Budget, agriculture, santé, les crises s'enchaînent pour Sébastien Lecornu, un petit peu de politique avec les échos. Le Premier ministre a fait sa rentrée lundi avec un menu chargé entre l'adoption du budget, toujours pas de budget en France, la crise agricole, je vous parlais du Mercosur ce matin aussi, et une nouvelle crise internationale, il n'a aucun répit. Donc, un article là-dessus, le Mercosur, vous vous souvenez que le président Macron a fait pression pour ses partenaires européens pour repousser la signature, le fait d'approuver le Mercosur. Les échos croient savoir que l'accord avec le Mercosur est en passe d'être approuvé. Cet accord commercial entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud pourrait intervenir en début de semaine prochaine, hein, malgré l'opposition de Macron qui se retrouve aujourd'hui isolé sur la scène européenne. Et puis il y a des agriculteurs français du coup qui reprennent les blocages en France. Vous voyez que la une du Monde est consacrée au Venezuela, l'ordre mondial selon Trump, mais c'est pas de ça dont je vous parlerai avec Le Monde. Un mot sur l'incendie suisse avec les 40 morts ce matin. Bon, on en parle tous les jours, petit Farion, ici, depuis plusieurs jours. Donc, tu as tout ça en replay. Il n'y a rien de nouveau ce matin, mais j'en ai parlé en fin de semaine dernière. J'en ai parlé aussi hier. Voilà. Si ça t'intéresse, tu as ça en replay. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. L'enquête se poursuit. Et j'attends d'en savoir un peu plus pour vous donner les informations que je ne vous ai pas déjà données. Non, dans Le Monde, c'est ça dont je voulais vous parler, la crise du logement. Je vous dis souvent que je ne comprends pas la sous-exposition et le sous-traitement, la sous-exposition médiatique et le sous-traitement de politique de quelque chose qui est gravissime, c'est-à-dire que les Français ont beaucoup de mal à se loger, que ce soit pour en location ou en achat. C'est un vrai sujet et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et on a un dossier dans Le Monde, justement, qui dit les choses, qui dit les termes. Pourquoi il est de plus en plus difficile de se loger en France ? La crise est si aiguë qu'elle s'impose aujourd'hui en tête des préoccupations pour les élections municipales de mars, j'ai envie de dire il était temps, en raison d'une croissance insuffisante du parc immobilier, la difficulté à se loger touche aujourd'hui toutes les catégories sociales, et plus seulement les populations précaires. La pénurie est telle qu'elle concerne tous les âges désormais, des étudiants aux familles qui souhaitent s'agrandir, en passant par les seniors. Après 2 années de chute historique des ventes et des mises en chantier, sur fond de fortes hausses des prix et des taux d'emprunt, le secteur du BTP reste enlisé. Mais une éclaircie s'amorce au moins dans le parc ancien. Century 21, blablabla, blablabla, enregistre un rebond de 12% des transactions en 2025, aidé par le recul du coût du crédit. Bon. Voilà, je vois de plus en plus d'articles sur la crise du logement en France. Et il était temps. Voilà. Excellent Les Échos ce matin. Voilà, il y a des journaux parfois. Certains jours, je me dis waouh, il y a vraiment plein d'articles intéressants. Là, il y a 2 pages dans Les Échos que je trouve vraiment génial sur 10 événements attendus qui vont marquer l'année 2026. On parle, ça nous permettra de parler de plein d'actu en 2 pages. On a la guerre en Ukraine, on a où on en est au Proche-Orient, on a les élections de mid-term aux États-Unis, on a du coup le Venezuela, le régime chinois sur tous les fronts, le Premier ministre britannique dans la tempête, Orban challengé en Hongrie. Un mondial de foot. Progressivement, on va commencer à en parler de ce mondial de foot qui est problématique à plusieurs aspects. Le mondial de la démesure en Amérique du Nord. Une Française, c'est la deuxième femme française, deuxième Française à aller dans l'espace. Bientôt, elle s'appelle, comment elle s'appelle déjà ? Sophie Adenau, voilà, qui ira bientôt dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Voilà. Donc on se penchera sur ces deux pages. Le replay de la matinée Étienne, John Snowboard, sur Twitch, c'est tout de suite après le live, hein, même pendant, si t'es abonné. Sur YouTube, c'est à J+1. Mathieu poste à J+1. Donc le lendemain, en général vers 13h. Et en podcast audio, c'est vers 15-16h tous les jours. Voilà. Donc on lira ça. Et puis on finira avec une info plus légère. Il m'en manque une là. Attends, je prends mes petites notes. Ça, c'est mes petites notes quand je me réveille le matin pour les journaux. Parce que je voulais parler d'une nouvelle console de jeux vidéo, mais je pense que pour moi, il y avait autre chose. 8, 7. Ah non. Non, c'est ça. Ok. Et il paraît qu'il y a une nouvelle console de jeux vidéo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est les Échos qui en parlent. La console Next Playground. Nouvelle console, ouais. Conçue pour les familles intégrant de l'IA, la console lancée aux États-Unis. Pour l'instant, c'est que aux States. C'est ici à la troisième place des ventes de consoles. En fin d'année. Nouveau venu dans le secteur, commercialisée uniquement outre-Atlantique. Elle a pris le monde du jeu vidéo par surprise ces dernières semaines. Jamais entendu parler, moi non plus. Mais c'est la troisième meilleure vente de consoles aux États-Unis. Voilà. Derrière la Switch 2 et la PS5. Elle a pris la troisième place aux dépens des Xbox. Voilà. Dynamisme commercial que la console doit à son positionnement loin des équipements de jeux vidéo traditionnels. C'est une offre particulière. Conçue avant tout pour les enfants et les familles. Avec l'accent mis sur le jeu actif à plusieurs. C'est bien le jeu actif à plusieurs. Next Playground, c'est son nom, se distingue aussi par son intégration poussée de l'IA. On verra ça. Voilà. Ah, mais quoi, c'est la première fois que j'entends parler. Eh ben, je suis très fier. Peut-être que c'est une daube, hein. Mais je suis très fier. Là, on dirait une belle arnaque. Bah, numéro 3 des ventes, quand même. Attends, ils en vendent plus que de Xbox, donc ça doit pas être... vous pensez que c'est une daubasse ? Ils en ont vendu 800 000 de leur truc, là. Quand même. C'est un scam ? Il y a Spike qui me dit que c'est un scam connu depuis longtemps. Beaucoup de scepticisme, hein, sur cette console. C'est comme une Kinect avec un abonnement pour avoir accès au catalogue des jeux vidéo. Ok. Ok. C'est pas fou alors. D'accord, ok. Comment ça, la Switch 2, c'est aussi un scam? Je sais pas, mes enfants, ils ont l'air contents, les trucs là. Ok. Bon, on en parlera tout à l'heure. Vous en pensez quoi de ce sommaire, bande de beaux gosses? Il y a de la matière, hein? Mais attendez. Attendez, je vous ai montré les journaux ou pas, là? Non, mais rassurez-moi, pendant le sommaire, je vous ai montré les journaux, je vous ai fait défiler où il y avait que ma tête. Attendez. Dites-moi, je vous ai montré les journaux. Je vous les ai montrés? Parce que là, je voyais ma grosse tête, là, je dis, c'est pas possible. Non, parce que ça vieillit, puis parfois ça fait n'importe quoi. Ok. Ça, vous m'avez rassuré. Vous m'avez rassuré, hein. Avec ma grosse tête, là. Ok. Du coup, on y va. On est prêts. Vous y allez. Merci d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. On y go. Merci, Gundamologue. Bonne journée à toi. Le sommaire, c'est pour que vous ayez l'essentiel de l'actu sans me supporter pendant 2-3 heures, quoi. En podcast, ils ont rien vu. Bah non, c'est normal, mais on les embrasse d'ailleurs. On vous embrasse très fort. On accroche la ceinture. Allez, let's go, on y va. Ok. Gestion du sommaire. Bim. Allez, une grosse page Venezuela, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Le nouvel impérialisme américain, c'est la une de la croix. Donald Trump entend régir à sa guise l'ensemble du continent américain qu'il revendique comme une chasse gardée. Ces mots, ils semblent anodins maintenant, c'est habitué, hein, depuis dimanche qu'on se penche sur le sujet, mais si on les prend séparément et calmement, la phrase, elle est dingue, elle est folle. Non mais, tu vois. Ouais, bon, tu vois. Bon, après, c'est comme tout, on va s'habituer, tu vois. Ouais, ils vont vers ce pays-là. Ouais, bah oui, bah, il y a 2 jours, mais la phrase est folle. Donald Trump entend régir à sa guise l'ensemble du continent américain. C'est des pays, hein, c'est des pays indépendants. Il y a des frontières qu'il revendique comme une chasse gardée. Alors, il y a un moment où on va s'habituer. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Alors, lisons ce dossier de la Croix qui est plutôt bien fait. L'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro dans la nuit du 2 au 3 janvier, dont on a beaucoup parlé ici, inaugure une nouvelle ère. Les États-Unis entendent désormais régir l'ensemble du continent américain et avoir la main sur l'hémisphère occidental, mise au service de la prospérité et de la sécurité du pays. Le raid éclair des forces spéciales américaines dans la nuit de Caracas a scellé, ça vous le savez maintenant, le sort du président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont comparu lundi devant un juge à New York. On attend avec impatience le procès, hein. Ils doivent notamment répondre de trafic de drogue. Mais une arrestation spectaculaire a une portée bien plus grande encore. En ordonnant cette opération, le président américain inaugure un nouvel ordre pour le continent et peut-être au-delà, un nouvel ordre mondial. Il tire un trait sur les règles héritées de la Seconde Guerre mondiale pour en instaurer de nouvelles, dont on peine encore à mesurer toutes les conséquences. Rappelons-nous, avant sa première élection, son premier mandat, rappelons-nous que certains journaux américains, sérieux, grands quotidiens américains, refusaient de mettre les articles sur Trump dans les pages politiques, hein, quand il parlait de se présenter à la présidentielle, parce que le considérait comme un clown, hein, comme un guignol, et ces journaux mettaient les articles sur Trump dans la catégorie divertissement. Tellement ils estimaient que ce mec était un clown qui jamais n'arrivera au pouvoir. Ça, c'est une chose réelle, ce que je vous raconte. C'était avant son premier mandat. Aujourd'hui, on lit des articles qui nous racontent que ce gars-là, qui était classé dans les pages divertissement de certains journaux américains, il est en train de dicter un nouvel ordre mondial, quoi. En quelques années. Il y a Diesel qui écrit, il faut toujours croire en ses rêves. Non, mais c'est fou. Parfois, prendre un petit peu de recul, hein, comme quoi, dans l'actualité, c'est détecter comme ça les choses qui se transforment, c'est pas inintéressant, ça peut avoir des conséquences de fou, quoi. Au Venezuela, les États-Unis sont désormais aux commandes, a affirmé Trump dimanche soir entre sa résidence de Floride et Washington à bord d'Air Force One. Le pays ne sera pas envahi comme le fut l'Irak. Mais Delcy Rodriguez, la vice-présidente nommée présidente par intérim, donc au Venezuela, est sommée de faire ce qu'il faut sous peine des pires conséquences. Alors, le plan de Trump pour le Venezuela n'est pas très clair. Enfin, si, il veut prendre le pétrole, ça c'est clair, il l'a dit. Mais pour ce qui est du changement de régime, c'est pas très clair. Parmi les pistes, ce serait finalement laisser le régime actuel au pouvoir. Donc ce n'est pas du tout la promesse d'une démocratie, la promesse d'un nouveau régime, plus de liberté pour les Vénézuéliens, plus de liberté politique, on n'arrête plus les opposants, on fait des élections qu'on ne truque pas. Ce n'est pas la promesse. Hein, ce qui pourrait se passer, c'est laisser la vice-présidente, qui est donc un membre du pouvoir, au pouvoir. À condition qu'elle obéisse aux directives trumpiennes. Donc pour ceux qui en doutaient encore, on n'est pas tellement sur une intervention militaire américaine pour rétablir un État démocratique au Venezuela. A priori, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Et la nouvelle dirigeante doit en premier lieu ouvrir les portes de son pays aux compagnies pétrolières américaines. Voilà, comme ça c'est clair. Des élections ne semblent pas à l'ordre du jour pour l'instant. Nous attachons de l'importance à la démocratie, déclare Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, mais, c'est le mais qui est important, mais ce qui nous importe avant tout, donc hein, ce n'est pas de l'analyse, les mots sont extrêmement clairs, avant tout, c'est plus important que la démocratie, c'est la sécurité, le bien-être et la prospérité des États-Unis. Il n'y a pas de procès en intention des propos des responsables américains. Il n'y a aucune analyse, aucune éditorialisation à faire de ces propos. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Nous ne sommes pas venus exporter la démocratie. Hein. C'est business is business. Tout ça, c'est pour le bien-être de l'Amérique. Un petit peu de pétrole et tout va bien se passer, quoi. L'opposition vénézuélienne, estimée peu crédible par Trump. La Charte des Nations Unies, sans intérêt. Les protestations de nombreux pays à travers le monde, peu importe. Les propositions de médiation, je crois que c'est l'Espagne qui a fait une proposition de médiation, pas question. Les États-Unis décident seuls la façon dont le Venezuela doit être géré, et cela dans leur intérêt exclusif. Le message vaut pour l'ensemble des Amériques, du Nord au Sud. Souvenons-nous que dans ses propos de ces derniers mois, Trump a notamment estimé que le Canada devrait être un État américain. Donc, d'où le Nord au Sud. Cet espace que la nouvelle administration américaine désigne sous le nom d'hémisphère occidental. Depuis son avion, le président des États-Unis a lancé des mises en garde à d'autres États des deux continents. Le dirigeant colombien, Gustavo Petro, possède des laboratoires de cocaïne. Il a intérêt à faire attention à ses fesses. Ce sont ses propos. A menacé Trump. Le président colombien qui a balayé ces accusations, mon nom n'apparaît pas dans les dossiers judiciaires sur le trafic de drogue, cessez de me calomnier, monsieur Trump. Ancien guerriero, le président colombien, a aussi menacé de reprendre les armes en réponse aux propos de son homologue américain, la Colombie, qui a déployé des troupes à sa frontière avec le Venezuela. Alors ça c'est pour la Colombie. Trump a aussi estimé que Cuba, désormais privé du soutien vénézuélien, devrait tomber toute seule, il n'y aurait même pas besoin d'intervenir. En revanche, il a jugé qu'il faudrait aussi faire quelque chose. Alors quoi? Une petite surprise trumpienne? Donc il a estimé qu'il fallait aussi faire quelque chose à propos de Claudia Sheinbaum, qui est la présidente mexicaine. Hein? Salut, call me Walid. Oh, classique. Un peu de lycée tranquillement, un petit peu de Sciences Po, un petit peu de droit, rien de foufou. Voilà. Donc, faire quelque chose à propos de la présidente mexicaine, car ça n'est pas elle qui dirige le Mexique, ce sont les cartels. L'Amérique n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance, a répondu la présidente mexicaine. Le continent américain appartient au peuple de chacun des pays qui le forment. Bon, c'est ce qu'on pensait avant, mais avec Trump, manifestement, c'est en train de changer. Hunter 155, je vais en parler de ça ce matin. Écrit dans le chat, les soutiens de Trump en interne diminuent. C'est vrai que la popularité de Trump est en train de diminuer aux États-Unis. Il a très peu de pouvoir dans son propre pays. C'est vrai qu'il y a des oppositions, l'opposition du Congrès, les oppositions de la justice aussi. Il se projette donc avec un noyau dur à l'extérieur des États-Unis, car en politique extérieure, il a quasiment les pleins pouvoirs et pas grand monde pour le bloquer. Normalement, le Congrès devrait donner son aval à ce genre d'opération, mais il n'a pas été consulté, si je ne dis pas de bêtises. J'habite Phoenix, me dis-tu, et ce qui me fait peur, c'est que plus personne n'ose parler de politique, les gens détournent les yeux, les médias se taisent. On a lu dimanche toute une série d'extraits d'articles dans la presse américaine, dans le Wall Street Journal, dans le New York Times, des éditos aussi sur CNN, qui sont extrêmement critiques contre le président Trump. Imaginez que le peuple américain est comme un seul homme, rangé le petit doigt sur la couture du pantalon derrière le président, et qu'il n'est pas critiqué ni par l'opinion publique, ni par les pouvoirs intermédiaires, les contre-pouvoirs et les médias, c'est faux. Il suffit de lire la presse américaine pour se rendre compte que le président américain est extrêmement critiqué. Au contraire, la popularité de Trump augmente aux États-Unis. Warp Todd Gunn, c'est exactement l'inverse que disent les sondages, mais peut-être que tu as des sondages à toi. On verra ce qui se passe aux élections de mi-terme, d'ailleurs, des élections de mi-mandat. Certains disent que ces opérations à l'international, bombardement de l'Iran, le rapt du président vénézuélien, sont justement destinées à redorer sa popularité en baisse, en chute, en raison de ses mauvais résultats contre l'inflation, contre le chômage, le pouvoir d'achat à l'intérieur. Il ne peut pas se représenter, donc on s'en fout. Ouais, mais il y a les élections de mi-mandat, les élections du Congrès qui arrivent là, dans pas très très longtemps, en fait. Et puis, je pense que le businessman qu'il est, je pense, verrait d'un bon œil l'arrivée au pouvoir après lui, d'un homme ou d'une femme, aligné sur ses idées à lui, idéalement même très proche, voilà, je sais pas, comme le vice-président J.D. Vance, par exemple, pour que le business puisse se poursuivre après, quoi. On sait que le président américain, Trump, s'est énormément enrichi pendant ses deux mandats, quoi. Il aimerait peut-être que ça puisse se poursuivre après, quoi. Je continue, pardon pour ces parenthèses, je réponds aux quelques questions du chat. Donc Cuba, je parlais de Cuba. Donald Trump a aussi estimé que Cuba, désormais privé du soutien vénézuélien, devrait tomber toute seule. Et donc, a priori, il dit qu'il faut faire quelque chose du Mexique. Trump est aussi revenu sur l'idée d'annexer le Groenland. On va beaucoup parler du Groenland ce matin. Jugeant qu'il le leur fallait aux Américains, absolument le Groenland. Là encore, ce sont ses propos, je n'invente rien, pour des raisons de sécurité nationale. Il reproche au Danemark de ne pas protéger suffisamment le Groenland, notamment des intérêts russes et chinois. Cette sortie a déclenché de nombreuses protestations indignes des Européens, parce que rappelons que le Danemark est un pays membre de l'OTAN. Imaginez une opération militaire d'un pays de l'OTAN, les États-Unis, contre le Groenland, administré par le Danemark, autre pays de l'OTAN. Waouh! Waouh! C'est la fin de l'OTAN. C'est la fin de l'OTAN. Comme dit que la McKinney is back dans le chat, le gars joue à risque en vrai. La première ministre danoise Mette Frederiksen a exhorté les États-Unis à cesser leurs menaces contre un allié historique. Hein? La France est dite solidaire du Danemark dans cette circonstance. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a fait part de son soutien. Toutefois, l'Union européenne ne semble pas du tout préparée à réagir au cas où les États-Unis mettraient en œuvre ce projet, ce qui leur semble plus tout à fait absurde. Les Européens semblent pris au dépourvu par l'accélération des événements. Je pense qu'effectivement, la position, la situation des Européens par rapport à tout ça, elle est très bien résumée par cette phrase. Les Européens semblent pris au dépourvu par l'accélération des événements. On a l'impression que les Européens, les peuples européens, mais aussi les dirigeants européens, n'avaient pas du tout prévu que Trump puisse agir ainsi, faire ce type de déclaration. Et pire, aller bien au-delà même de ces déclarations. Il y a un gars qui dit Danemark qui est équipé d'avions militaires désactivables par Washington. Je crois que tu as raison. Je crois que les avions de combat, de chasse achetés par le Danemark encore récemment sont des appareils que les États-Unis peuvent désactiver à distance. Je l'ai lu ce matin. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes des questions militaires dans le chat pour le confirmer. Mais imaginons un conflit entre le Danemark et les États-Unis. Une partie de la flotte danoise serait clouée au sol. C'est les F-35? C'est ça. Très fort, très fort. Ils avaient prévu leur coup, les malinx, dit Shidoshin. Alors, je prends cette information au conditionnel parce que moi, je suis pas un spécialiste des questions militaires et je trouve ça quand même fou que les États-Unis puissent désactiver à distance des appareils. Et Ultra Wild Chicken me dit par exemple, non, c'est une fausse croyance, c'est juste qu'ils seront privés de mise à jour. Hein. Mais iBot me dit une partie de leur système de combat dépend directement des outils États-Unis qu'ils peuvent désactiver, comme GPS par exemple. C'est un débat intéressant. Continuons. En tout cas, c'est très intéressant, ça. Donc, les Européens semblent pris au dépourvu par l'accélération des événements. Et pourtant, tous ceux qui ont lu la nouvelle stratégie nationale de sécurité des États-Unis n'auront aucune raison d'être surpris. Et là, je m'en veux. Parce qu'en décembre, fin décembre, les États-Unis ont publié leur nouvelle stratégie nationale de sécurité. Il y a eu des articles dans la presse française. Je ne vous les ai pas lus. Parce que je me suis dit, ah là, encore Trump, et puis c'est juste du papelard, c'est de la diplomatie. Et pourtant, tout était écrit dedans. Tout était écrit dedans. Et là, je regrette. Vous voyez, moi, je fais des choix dans l'actualité, je ne vous lis pas tout. Je fais des choix, je me dis, tiens, ça c'est important, ça c'est moins important, ça on en reparlera. Et là, je vous ai pas. Il y a eu des articles dans la presse française sur la révolution et le caractère choquant de cette nouvelle stratégie nationale de sécurité publiée fin décembre par les États-Unis. Et tout ce qui est en train de se dérouler, c'est écrit dedans. Dans ce document de 30 pages rendu public en novembre 2025 même, il y a eu, oh, il y a des articles, Sugar, il y a des articles. J'ai vu au moins 3 ou 4 articles là-dessus. Dans ce document de 30 pages rendu public en novembre 2025, tout est dit. Les États-Unis font de l'hémisphère occidental une chasse gardée. C'était écrit. Des rives de l'Arctique à la Terre de Feu, Washington veut s'assurer de n'avoir que des alliés. Les États-Unis entendent rétablir la prééminence américaine dans l'hémisphère occidental. Ils empêcheront leurs concurrents. Comme la Chine ou la Russie, de déployer des forces ou de posséder des actifs stratégiques vitaux dans leur hémisphère. C'était écrit, noir sur blanc. Oui, c'est, tu as raison. Lucas Lucky, c'est le fameux document où ils disent aussi que l'Europe est en train d'être grand remplacée, utilisant les mots, le champ sémantique des partis d'extrême droite. Exactement. Bon, après. Trump n'a jamais caché sa sympathie pour les partis d'extrême droite européens et verrait d'un très bon œil l'arrivée de ces partis au pouvoir en Europe. Il le dit, hein, là aussi je n'invente rien, il le dit parce qu'il estime qu'avec des partis comme ça au pouvoir dans les pays européens et notamment en France, ce serait plus facile de s'entendre avec eux. Voilà. Pour ça, là encore, ce sont juste ses propos. Hein. Il n'y a aucune analyse dans ma bouche. Washington entend s'appuyer sur ses gouvernements alliés, voilà, en Europe, pour contrôler les migrations, c'est écrit dans le document, endiguer le trafic de drogue et renforcer la stabilité et la sécurité terrestre et maritime. On en est même à se demander si à la faveur des prochaines élections en France, il faudra voir quel sera le comportement du président américain et s'il interviendra plus ou moins discrètement, plus ou moins officiellement, sur cette élection pour tenter de faire pression. Quoi. Cette prééminence doit servir en premier lieu à assurer la prospérité des États-Unis. Business, business, business. Nous souhaitons un hémisphère libre de toute incursion étrangère hostile ou de toute mainmise sur les actifs clés qui soutient les chaînes d'approvisionnement essentielles. En clair, les matières premières du continent sont réservées en priorité aux industries américaines. En posant ses priorités, les États-Unis réactivent la doctrine Monroe, hein, édictée, alors il y a un petit moment déjà, hein, par le président Monroe américain au début du 19e siècle. Voilà. Je crois que Trump l'a rebaptisé doctrine Donroe, comme Donald. Hein. À l'époque, il s'agissait d'interdire à l'Europe de s'immiscer dans les affaires américaines. La stratégie nationale de sécurité des États-Unis se réfère explicitement à ce précédent de la doctrine Monroe. Voilà. Et dit vouloir mettre en œuvre un corollaire Trump à la doctrine Monroe. Ah ben voilà, la presse américaine l'a déjà baptisé doctrine Donroe. Pardon, c'est la presse américaine qui l'a fait, c'est pas Trump. Voilà. Condensé de Donald et Monroe. Faut-il comprendre que les États-Unis vont se désintéresser du reste du monde ? Ça n'est pas ce que dit le texte, que je regrette de ne pas vous avoir lu en novembre-décembre. La stratégie américaine de sécurité souhaite également une Europe ouverte aux entreprises américaines, débarrassée du carcan réglementaire imposé par l'Union européenne, est composé de nations indépendantes aux mains de gouvernements nationalistes. Voilà ce que les États-Unis souhaitent pour l'Europe. Plus d'Union européenne. L'Union européenne qui fait que diplomatiquement, économiquement, les pays européens sont plus forts unis qu'ensemble. Plus d'Union européenne qui a un partenaire un peu compliqué avec qui discuter. Voilà, et qui en plus crée des directives, DSA et autres, pour encadrer les géants du numérique et notamment les GAFAM. Voilà. Et à la place de l'Union européenne, des nations indépendantes, hein, à l'ancienne, aux mains de gouvernements nationalistes. Comme dit Néo, divisé pour mieux régner. Nous voulons soutenir nos alliés dans la préservation de la liberté et de la sécurité de l'Europe, tout en restaurant la confiance civilisationnelle et l'identité occidentale de l'Europe. Bon, ça, ces mots-là, vous pouvez les prendre et les copier-coller dans n'importe quel programme de parti d'extrême droite en France. Et en Europe. Nous voulons soutenir nos alliés dans la préservation de la liberté et de la sécurité de l'Europe tout en restaurant la confiance civilisationnelle et l'identité occidentale de l'Europe. Ça pourrait être dans le programme de n'importe quel parti d'extrême droite européen. Elle souhaite aussi une Chine contenue. avec lesquels les échanges seraient rééquilibrés, et dans l'ensemble, un monde soumis à un ordre américain au service du nouvel âge d'or pour les États-Unis. Promis par Trump dès son inauguration il y a un an, cette stratégie affirme aussi l'importance de perpétuer la capacité d'influence des États-Unis grâce à son soft power et sa prééminence culturelle. Il y a là une forme de paradoxe, car toute la politique de Trump tente au contraire à éloigner les alliés traditionnels de Washington. Bon, je fais une petite pause et je vous lis parce que je ne vous ai pas trop lu. Et on ira lire après l'avis d'un économiste spécialiste des matières premières qui s'appelle Philippe Chalmin, toujours dans la Croix. Je ne sais pas si ça a été discuté, me dit Wise Penguin, mais si les États-Unis tentent une approche hostile vers le Groenland, est-ce que vous pensez que l'Europe prendra des mesures comme le gel des avoirs américains, comme la Russie ? Bah, si l'Europe réagit de façon aussi timide que sur le Venezuela, il n'y aura pas un petit doigt levé en Europe pour défendre le Groenland. Hein ? Oui, comme dit Rafe, ça va condamner fermement. Hein ? Ça va condamner fermement, ouais. Est-ce que tu penses que Trump est devenu persona non grata en Europe ? Ghost Wawa, non. En revanche, les États-Unis, ces dernières semaines, ont déclaré que certaines personnalités européennes, notamment les personnes qui ont bossé sur les directives DSA, etc., et tout, là, pour encadrer les activités numériques et l'activité des GAFAM, elles sont interdites de territoire américain. Hein, plusieurs personnes, responsables d'ONG aussi, ainsi que comment s'appelait Thierry Breton, qui a bossé sur ces fameuses directives aussi. Là aussi, ce sont des faits. Je vous lis. Quelles sont les tendances pour les prochaines présidentielles américaines ? Atebaba, on est trop loin, on est trop loin. On est trop loin, on est à 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, de 2 ans et demi, 3 ans de la prochaine présidentielle américaine. On est bien trop loin pour faire des pronostics, bien trop loin, bien trop loin. Même pour la présidentielle en France 2027, on est trop loin. Non, ce qui est intéressant, c'est les élections de mid-term, des élections de mi-mandat avec un renouvellement partiel du Congrès, Chambre des représentants et Sénat. Et là, on va pouvoir commencer à s'intéresser à ça, ouais. A priori, traditionnellement, les élections de mid-term sont très compliquées pour les présidents en place. Et ça semble être le cas aussi pour le président Trump. Il y a Babax White dans le chat qui nous parle d'un très bon doc sur Arte sur la manière de gouverner de Poutine, qui illustrait comment le président russe avait activement testé l'Europe avec des micro-agressions sur ces 20 dernières années. Babax White dit que pour lui, Trump s'inspire beaucoup de cette façon de faire. On enchaîne ? Que peut changer les élections de mi-terme ? Bah, en fait, si les Américains donnent une majorité à l'opposition démocrate à la Chambre des représentants au Sénat, bah, en fait, le président Trump va être empêché, quoi. Alors, on ne va pas comparer les deux systèmes politiques parce qu'ils sont extrêmement différents, mais vous voyez comment le président Macron ne sert plus à grand-chose en France et plus personne ne l'écoute d'ailleurs, hein. Depuis qu'il il n'a plus de majorité à l'Assemblée pour en courroie de transmission de sa politique. C'est un président impuissant. Alors, je ne compare pas les deux régimes parce qu'ils sont très très différents, mais un congrès à majorité démocrate ou à très très forte opposition démocrate, ben ça gênerait beaucoup Trump, quoi. Qui est déjà très embêté d'ailleurs au quotidien par le congrès, la justice américaine, dont il enregistre régulièrement des revers, hein, sur ce qu'il essaye de faire, par exemple. Vous savez, dans son énorme plan que devait mettre en place, vous savez, Elon Musk, de fermeture d'administration américaine, de licenciement, Vous savez que la justice américaine est beaucoup intervenue et qu'en fait, ça a été très limité par la justice, par exemple. Bon, ça, on n'en parle pas, nous, en France, trop, parce que c'est vraiment de la politique intérieure américaine, mais c'est là où, aujourd'hui encore, les États-Unis restent une démocratie, parce qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs. Mais c'est pour ça que les élections de mid-term, de mi-mandat, comme on dit en bon français aux États-Unis, qui arrivent, sont très intéressantes. Alors, on a un édito, on a un article, une interview de Philippe Chalmin, également dans La Croix, qui est un économiste français spécialiste des matières premières, donné à La Croix, et qui dit: Nous sommes dans l'irrationnel trumpien. La volonté américaine de mettre la main sur le pétrole du Venezuela ne suffit pas à elle seule à expliquer l'intervention militaire. Lisons. L'enjeu de sécuriser l'accès des États-Unis aux matières premières est-il la principale raison de la capture du président vénézuélien par l'armée américaine? Que répond M. Chalmin? Est-ce qu'il n'y a que le pétrole? À première vue, les raisons ne sautent pas aux yeux. La seule ressource du Venezuela est le pétrole, avec les plus grandes réserves mondiales de pétrole devant l'Arabie saoudite. Mais l'intérêt pour les États-Unis de mettre la main dessus semble limité pour Philippe Chalmin, parce que, et ça, certains me l'ont déjà dit dans le chat depuis quelques jours, ce pétrole, qualifié d'extra-lourd, est assez difficile à exploiter. Hein, il faut beaucoup d'investissements. Pour extraire et l'exporter par bateau, il faut d'abord injecter des produits afin de le diluer. Tout cela nécessite des technologies complexes que le Venezuela n'avait plus les moyens de développer. Paradoxalement, le Venezuela, qui est très riche de pétrole dans ses sous-sols, exportait très peu parce que la filière pétrolière vénézuélienne était très mal en point, quoi, et beaucoup manquait d'investissements. Les États-Unis disposent de ces technologies et une petite partie de leur outil de raffinage dans le golfe du Mexique a été conçue pour traiter d'ailleurs le pétrole vénézuélien. Mais mener une telle opération militaire pour faire tourner à pleine capacité quelques raffineries américaines me semble disproportionné. Donc, Chalmin dit, il n'y a pas que le pétrole. Il y a le pétrole, mais il n'y a pas que. Peut-on pas imaginer tout de même que les États-Unis cherchent à mettre la main sur ces énormes réserves d'hydrocarbures? C'est sans doute une des explications de cette intervention, mais pas la première, dit encore Chalmin. Car il va falloir investir beaucoup pour remettre à flot l'appareil de production. On parle d'au moins une centaine de milliards de dollars, cela va prendre du temps. Il faut aussi que les grandes compagnies américaines le veuillent, ce qui n'a rien d'évident, car elles ont déjà largement de quoi faire pour l'instant sur leur propre sol. Et puis, il faudrait que les entreprises pétrolières américaines acceptent d'investir énormément d'argent au Venezuela, sachant que rien ne garantit que Trump va réussir à garder le Venezuela sous sa coupe, sous sa main longtemps. Comment va réagir le peuple vénézuélien? Comme vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent. À l'heure où la Chine investit de plus en plus en Amérique du Nord, en Amérique latine, pardon, Donald Trump souhaite-t-il déclarer cette partie du continent, donc l'Amérique latine, comme chasse gardée des États-Unis pour envoyer le message à la Chine, pas touche. C'est évident, les Chinois ont accru fortement ces dernières années leurs échanges commerciaux avec ces pays d'Amérique du Sud, à qui ils achètent beaucoup de matières premières, matières agricoles, minerais, cuivre, lithium. La Chine et le Brésil se sont également rapprochés. Tous ces mouvements ne sont pas très bien vus par les États-Unis, mais on ne peut pas dire pour autant que les Chinois sont en train de s'emparer des terres rares du continent sud-américain. En ce domaine, ils sont beaucoup plus actifs en Afrique. Enfin, si un début de l'intervention américaine au Venezuela est de signifier aux Chinois qu'ils doivent réduire la voilure en Amérique du Sud, c'est aussi une arme à double tranchant. Parce qu'il sera difficile en effet pour Trump de contester les vues de la Chine sur Taïwan, on en a déjà parlé ici, qui repose sur cette même logique de chasse gardée. Alors, si la volonté d'exercer un contrôle sur les matières premières ne suffit pas à justifier l'opération, quels en sont donc les principaux ressorts? Demande La Croix à Philippe Chalmin. Difficile à dire. Nous sommes, estime l'économiste, dans l'irrationnel trumpien, comme avec ses propos sur le Groenland. Ceux sur la défense des fermiers blancs d'Afrique du Sud, ou avec les frappes au Nigeria pour protéger les chrétiens. Même les arguments avancés sur la lutte contre le narcotrafic ont du mal à convaincre. La cocaïne qui arrive aux États-Unis passe plus par la Colombie que par le Venezuela, et le fentanyl qui vient de Chine transite par le Mexique. Ça, c'est des arguments qui vont être utilisés par les avocats de Maduro, d'ailleurs, aux États-Unis, lors de son procès. Reste la volonté commune à tous les présidents américains d'avoir leur opération qui restera dans l'histoire, comme Barack Obama avec l'élimination de Ben Laden. Mais beaucoup d'interrogations demeurent, car si l'appareil d'État mis en place par Maduro perdure, un scénario comme en Libye, c'est-à-dire de guerre civile, n'est pas à exclure. Bon, Chalmin lui dit que. Il y a ceux qui disent, bon, c'est le pétrole. Drill, baby, drill. C'est le pétrole, c'est les matières premières, c'est la chasse gardée. Et Philippe Chalmin dit, bon, non, le mec est fou. Mais. Mais je sais pas si c'est. Enfin, un économiste qui dit, nous sommes dans l'irrationnel trumpien, en termes un peu moins châtiés, c'est, ouais, le mec est complètement loco, quoi. Je vais mettre un coup de mi-chauffage parce que je me caille un peu là, j'ai mis zéro chauffage. Et puis je vous retrouve dans 10 secondes. Vous partez pas, vous discutez entre vous gentiment? J'arrive. Je ne sais pas ce que j'ai fait ce matin. Donc comme il y a un peu de la neige, du verglas dehors, mes chaussures étaient un peu sales, un peu. Et donc je suis un peu maniaque. Dans l'entrée, j'ai fait des traces de semelles, quoi, de dos un peu sale, quoi. Et donc j'ai passé cette espèce de truc de Swiffer, je sais pas quoi là, ce matin. Et je sais pas ce qui s'est passé. C'est très pratique ce truc-là, Swiffer. Je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, ça marche très bien, tu vois. Et là, ça colle. Donc, je suis allé allumer le chauffage, là. Et ça colle. Alors, est-ce que c'est le produit qui est trop froid? Je sais pas. Donc, ça fait sclatch, 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 sclatch. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y a des spécialistes du Swiffer. Ah, ça fait pareil chez moi. Reason. Trop de produits, suffit de rincer? Ok. Ah, trop de produits? Ok. Merci beaucoup. Bon, j'ai jamais un coup du coup. Si ça fait stache, tache, c'est les bras de Sisla Boys, me dit 77 sous bazar. Ah, j'ai trop mis? Ok, d'accord. Bon, moi je vais réessayer alors. Faut que j'en mette de l'eau alors. Ok, désolé pour la petite pause, mais voilà. Je suis un peu maniaque. Je suis un peu maniaque. Alors. On enchaîne avec. C'est quoi? C'est les échos? Ouais, les échos, qui s'interrogent toujours sur les raisons du pourquoi, du comment de Trump. Voilà. Et donc là, on a Jean-Marc Vittori dans les échos qui nous donne les trois vraies raisons de Trump pour son intervention au Venezuela. Lisons. Donald Trump serait-il un adepte de la théorie du fou? Ah ouais, ça c'est super intéressant ça. Le côté imprévisible, vous savez. Faire comprendre à ses interlocuteurs qu'en fait le gars est toujours prêt à tout. La théorie du fou. Lui-même en a parlé, je crois, officiellement en disant c'est une façon d'être imprévisible et de faire peur en fait. La question se pose encore plus avec le kidnapping du président vénézuélien Nicolas Maduro ou les dernières menaces du président des États-Unis sur le Groenland, sur Cuba, sur la Colombie. La théorie du fou n'est pas nouvelle. Elle a été décrite il y a 6 siècles par Machiavel. il y a 6 siècles, soulignant combien il y a de sagesse à feindre pour un temps la folie. C'est intéressant. Imaginez que Trump se réclamant de Machiavel. Et mise en œuvre notamment par Nixon, autre président américain il y a un demi-siècle, pour tenter de faire croire aux dirigeants nord-vietnamiens qu'il était totalement imprévisible et donc capable de faire n'importe quoi. Donald Trump semble marcher sur les traces de son lointain prédécesseur, car derrière l'incohérence apparente de ses paroles et de ses actes, il y a en réalité une continuité, une logique, une stratégie. C'est désormais le cas pour tout ce qui concerne les Amériques. Le déraisonnable président des États-Unis a 3 bonnes raisons de parler et d'agir comme il le fait. Les 2 premières ont été souvent évoquées, moins la 3e. Je suis assez d'accord avec Gaydon, qui dit que c'est déjà plus intéressant comme analyse que juste « il est fou ». Je pense qu'effectivement, partir sur la piste d'un gars complètement teubé, fou, irrationnel, à mon avis, c'est pas la bonne piste. Comme le dit un Eckhart Tolle, il y a des conseillers qui sont bien, bien lucides derrière lui. On est d'accord. Première raison, hémisphère occidental. Depuis 2 siècles déjà, et ça c'est pas nouveau, même si Trump l'exprime d'une façon assez radicale, depuis 2 siècles, les États-Unis considèrent les Amériques, le continent américain, comme leur chasse gardée. Dans son discours de 1823, le président James Monroe entendait seulement dissuader les Européens d'y mener de nouvelles aventures coloniales. À partir de la fin du 19e, les Américains ont renforcé cette emprise sur la région en intervenant militairement à plusieurs reprises déjà. Cuba, 1961, Chili, 1973, Nicaragua, 1985, Panama, 1989. Donald Trump s'inscrit dans cette longue tradition. C'est intéressant de voir qu'en fait, le comportement de Trump aujourd'hui, il s'inscrit dans une tradition américaine, alors qu'il s'est exprimé de façon plus ou moins radicale et excessive. Hein ? Mais ça n'est pas totalement nouveau. C'est-à-dire que Trump n'est pas, ce que dit l'article, c'est que Trump n'est pas tant que ça, au niveau diplomatique et international, un accident dans l'histoire américaine, mais s'inscrit dans une forme de continuité, avec une motivation nouvelle, cette fois la volonté de lutter contre la montée en puissance de la Chine, hein, devenue premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud devant les États-Unis. L'ex-empire du milieu, il multiplie les projets ambitieux comme l'énorme port de Chancay au Pérou. Dès le début de son second mandat, l'ancien casinotier a évoqué ses projets expansionnistes à Panama, au Canada, au Groenland, et il a menacé la Colombie. Les premiers droits de douane qu'il a annoncés concernaient le Mexique et le Canada. Mais après ce coup de semonce, les droits effectifs sont plus cléments sur les produits venant de l'hémisphère occidental que sur les autres. Trump soigne sa zone d'influence. Alors, un, donc, c'est l'hémisphère occidental. 2, accès aux ressources naturelles. La raison n'est plus politique, mais économique cette fois. Les Amériques, c'est aussi l'accès à des matières premières qui manquent aux États-Unis. Le pétrole, bien sûr, même si les États-Unis sont pour l'instant autosuffisants, mais aussi des métaux. L'Amérique latine, qui détiendrait les 2/3 des ressources mondiales de lithium et près de la moitié des réserves de cuivre, au nord des États-Unis, le Canada et le Groenland, tiens donc, sont aussi eux très riches en matières premières, renforçant son emprise sur la région. Trump veut sécuriser les approvisionnements des États-Unis et perturber ceux de la Chine. 3. Politique intérieure. Ah, pas mal de petits articles. Court mais bien. Je remercie aucun sub là. Merci Grosbob 31, merci Romano. Politique intérieure. En réussissant une opération spectaculaire au Venezuela, Trump tente aussi une opération de politique intérieure, mobiliser le sentiment patriotique pour faire oublier ses piètres résultats au pays. L'inflation résiste, alors qu'il avait promis de la faire disparaître. L'emploi diminue dans l'industrie malgré les droits de douane et il faiblit ailleurs. Le plan de réduction de la dépense publique a échoué. Hein, plus de la moitié des Américains désapprouvent sa politique. Et l'écart avec ceux qui l'approuvent est plus élevé que lors du premier mandat. Il y a Rimet qui me dit « Court mais bien, c'est tout moi selon ma femme. » Je ne l'ai pas. « Court mais bien, c'est tout moi selon ma femme. » Je ne l'ai pas. La manœuvre qui consiste à porter le fer à l'étranger est risquée, car Trump s'est fait élire sur la promesse de s'occuper de... Ah si, je l'ai. Ok, je l'ai. La manœuvre qui consiste à porter le fer à l'étranger est risquée car Trump s'est fait élire sur la promesse de s'occuper d'abord de l'Amérique. Une partie de son électorat est franchement isolationniste. Hein. On reste entre nous, on ne s'occupe pas des autres. Mais la fierté américaine reste un ressort puissant. Les électeurs donneront leur verdict dans 10 mois, lors des élections de mi-mandat. Ils diront peut-être que Trump a eu raison et donc il n'est pas si fou. Argonaut, je suis content que tu réécrives dans le chat parce que j'ai lu ton message hier et puis j'ai pas eu le temps de le lire à la communauté, je trouvais ça intéressant. Et tu en reparles aujourd'hui et merci à toi. Et du coup, je vais lire ton message cette fois. Argonaut 31, comme je l'ai dit hier, on prête beaucoup de choses à Trump alors qu'en réalité, je ne pense pas une seconde que ce soit lui, la stratégie, mais au contraire, un entourage très ultra-droite qui a tout théorisé. Tous les dirigeants qui ont rencontré Trump et ses biographes disent qu'il ne peut pas se concentrer plus de 5 minutes sur un sujet sans être lassé. Par contre, il est craint comme dirigeant car il est très violent et très entouré de gens violents. Mais arrêtons d'en faire un génie en stratégie. Intéressant. Merci à toi. Voilà, et puis vous... Donc c'est la une de la Croix encore ce matin, et puis je pense que ça va faire la une des journaux encore plus un certain temps. Hein. Surtout s'il se met à attaquer la Colombie, le... Cuba, Groenland, que sais-je. Et c'est aussi la une de Libération ce matin. Où Trump s'arrêtera-t-il? C'est la question que tout le monde se pose. Du coup, je leur ai piqué le titre pour en faire mon titre moi-même. Groenland, Colombie, Cuba. J'avais oublié Cuba. Le coup de force de Trump au Venezuela laisse craindre d'autres opérations militaires déstabilisant davantage l'ordre international. Alors, on va se pencher rapidement sur ces scénarios. Groenland... mais avec un peu plus de détails que dans les articles précédents, Cuba et Colombie. Groenland, la crainte d'un scénario vénézuélien. Les menaces de Trump qui voudrait faire de l'île Arctique, le 51e État américain, décidément, il veut faire de plein d'endroits le 51e État américain, parce que je crois qu'il avait dit ça du Canada aussi. Vous allez voir que bientôt, la Bretagne devra être le 51e État américain. Hein, avec voilà. Le jour où Trump aura découvert les trésors de la Bretagne, la galette complète, le cidre, le chouchen, le Mont-Saint-Michel, hein, que les Normands pensent être Normands, alors que tout le monde sait que la Bretagne l'a prêté à la Normandie, la galette saucisse, le Queen Yaman, le coca dégueu, là, vous avez raison, le Brescola. Vous allez voir que, bientôt, Trump va nous faire une petite déclaration sur la Bretagne, 51e État américain. Sans compter le climat. Donc bon, mais on aura le temps d'en parler. Voilà. Donc les menaces de Trump qui voudrait faire de l'île Arctique le 51e État américain inquiètent de plus en plus, mais Washington aurait bien d'autres moyens d'augmenter sa présence sur place. Il n'y a a priori pas grand-chose en commun entre le Venezuela et le Groenland. Ouais, c'est pas faux. Entre un régime tropical et pétrolier, tenu par un régime autoritaire et l'île Arctique sous tutelle administrative danoise, l'île Arctique, ils ne partagent qu'une infortune, leur seul point commun a priori, l'intérêt malsain de Trump à leur égard. Le coup de force américain à Caracas a réveillé la peur au Groenland. Trump promet depuis un an de transformer l'île en un 51e État américain par la force ou par l'argent. Et à tous ses ambitions d'apprenti empereur, il n'a rien fait ce week-end pour calmer des inquiétudes. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Ce sont les propos de Trump. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Je répète la phrase, elle est quand même insane. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Le Danemark ne sera pas en mesure de gérer la situation. Il parle des influences russes et chinoises. Nous nous en occuperons dans environ 2 mois. Donc non seulement le gars dit « en gros, ça va être à nous », mais il donne le tempo, il donne le timing, c'est dans deux mois. A-t-il déclaré des journalistes. Le premier ministre groenlandais lui a répondu du tac au tac, nous avons été un ami loyal des États-Unis pendant des générations, mais les alliances sont bâties sur la confiance, et la confiance nécessite le respect. Je demande instamment aux États-Unis de mettre fin à leur menace contre un allié historique, a renchéri la première ministre danoise. Comme pour le Venezuela, l'argumentaire de Trump à l'encontre du Groenland s'est construit sur un mélange d'intérêts économiques en partie fantasmés et de fausses affirmations. À en croire le président américain, l'île serait entourée de bateaux russes et chinois, et le Danemark, chargé de sa défense, ne ferait rien pour protéger. Donc, il y a un moment où il faut remercier Trump. Hein, parce qu'en fait, Trump fait ça pour le Groenland, pour sa sécurité. Merci, Memento Moisi, pour ton message. Hein, c'est un bon gars. Annexer le territoire serait ainsi une question de sécurité nationale pour les États-Unis. L'idée ne sort pas tout à fait de nulle part. L'île Arctique suscite la convoitise américaine depuis le 19e siècle et a joué un rôle stratégique important au cours de la seconde moitié du 20e. Les Américains s'y sont installés pendant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher l'invasion nazie, hein, installer des stations météo fondamentales pour planifier les bombardements en Europe, exploiter la cryolite, minerai rare qui servait à la fabrication de l'aluminium. Cryolite, le point faible de Superman. C'est le mec qui confond tout. Le réseau de base construit à cette époque a ensuite été un atout lors de la guerre froide. Les soldats américains y sont d'ailleurs toujours stationnés. Depuis la réélection de Trump, Copenhague a tenté de répondre aux reproches des Américains, qu'il accuse d'avoir donc délaissé la sécurité de l'île. Le royaume scandinave a boosté son budget de défense pour l'Atlantique Nord à 5,6 milliards d'euros pour l'année, c'est-à-dire la moitié de son effort total de défense. Et l'armée danoise a tenu à l'automne les plus grands exercices militaires qu'elle ait jamais organisés sur l'île. Je crois que dans l'avion, dans l'Air Force One, Trump s'est moqué de tout ça. Il a dit « Ouais, vous avez vu la dernière initiative du Danemark pour sécuriser le Groenland ? Je crois qu'ils ont, ils ont acheté un nouveau chien de traîneau. » Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Waouh ! Voilà. Wow. Bon, c'est un chien de traîneau à 5,6 milliards quand même. Pour l'heure, l'administration Trump n'emploie pas directement la menace militaire pour faire pression sur le Groenland et le Danemark. Elle préfère l'espionnage et la déstabilisation. Le Wall Street Journal a révélé en mai que les services de renseignement américains accentuaient leur activité sur l'île, notamment dans les milieux indépendantistes. En août, Copenhague a signalé que les Américains s'étaient rendus discrètement au Groenland pour recruter des agents chargés de militer en faveur de l'annexion par les États-Unis. Hypothèse largement rejetée par les Groenlandais. Je précise que le Groenland n'a rien à voir avec Groland, hein, le pays bien connu des téléspectateurs de Canal+, à la belle époque de Canal+, voilà, la principauté, etc. Ça n'a rien à voir. Nouveau coup de pression en décembre, lorsqu'un envoyé spécial américain pour le Groenland a été nommé. Pour ce poste rare, qui ne compte que 6 autres équivalents dans le monde, Trump a choisi un de ses fidèles, le gouverneur de Louisiane, qui s'est empressé d'affirmer qu'il serait un honneur de faire du Groenland une partie des États-Unis. Voilà, c'est extrêmement clair. Signe des tensions, pour la première fois, le Danemark a cité Washington comme une menace. La phrase, elle est folle. Signe des tensions, le Danemark, membre fondateur de l'OTAN, a cité Washington comme une menace dans le rapport annuel de ses services de renseignement. Les États-Unis, je cite le rapport, tirent parti de leur puissance économique pour imposer leur volonté. La possibilité de recourir à la force militaire, même contre leurs alliés, n'est plus exclue. Quelles conséquences d'une éventuelle intervention militaire américaine au Groenland ? Une intervention américaine serait encore plus risquée que le coup de force au Venezuela pour l'ordre mondial et ce qu'il reste du multilatéralisme ? Elle ferait probablement imploser l'OTAN, dont les États-Unis et le Danemark sont membres. Même dans le monde de Trump, cette option semble disproportionnée. Il existe d'autres moyens d'augmenter la présence militaire sur place. L'exploitation des terres rares y est extrêmement complexe et les routes maritimes arctiques sont toujours pratiquement au point mort. Mais alors que la Maison-Blanche a abandonné pour de bon toute vision à moyen terme, rien ne semble pouvoir plus être exclu. Fou, hein ? Il y a Backshots qui écrit les USA, c'est quand même quelque chose en termes de puissance et d'influence, c'est assez fascinant. Fascinant slash très inquiétant, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Donc ça, c'est pour le Groenland. Colombie. J'ai bien envie d'un café, mais je viens de me lever pour passer la serpillière, le Swiffer, donc on va pas se lever toutes les 5 minutes. En Colombie, Gustavo Petro, c'est le président colombien, ne baisse pas les yeux. Il est un peu fâché, hein. Élu démocratiquement, le président colombien prend très au sérieux les intimidations de Trump et menace de prendre lui-même les armes en cas d'attaque. Nul ne doute désormais en Amérique latine que les menaces proférées par Trump doivent être prises au sérieux, mais jusqu'où ? La Colombie retient son souffle. Quelques jours après l'intervention américaine au Venezuela, alors que les passes d'armes entre Gustavo Petro, premier président de gauche de la troisième économie latino-américaine, et le locataire de la Maison-Blanche font depuis des mois les gorges chaudes des médias et enveniment les relations diplomatiques des deux pays. Résumé, les deux là, Petro et Trump, ils s'entendent pas très très bien. Je suis ni illégitime, ni un narco, répond le président colombien aux dernières invectives de Trump qui lui disait samedi de faire gaffe à ses fesses. Et déclaré dimanche aux journalistes présents dans Air Force One, la Colombie est un pays dirigé par un malade qui fabrique de la cocaïne. Bon, pour une partie de l'assertion, c'est un peu d'hôpital qui se moque de la charité. Dans un long texte posté sur X en pleine nuit, Gustavo Petro rappelle les saisies historiques de drogue de son gouvernement, invoque la constitution colombienne, appelle le peuple à le défendre s'il était attaqué, et prévient même, en évoquant son passé de guérillero, voilà, bien que je n'ai pas été militaire, je connais la guerre, je connais la clandestinité. J'ai juré de ne plus toucher une arme depuis le pacte de paix de 1989, mais pour la patrie, je prendrai de nouveau les armes que je n'aime pas. Tendu. Natacha. Pardon, excusez-moi. La politologue, Sandra Borda estime que la situation colombienne n'a rien à voir avec celle du Venezuela. Gustavo Petro a été élu démocratiquement, sans contestation d'aucune sorte, contrairement au président vénézuélien, hein, dont les deux élections et réélections sont bien bien limites. Pour la deuxième, carrément volée. Donc Petro a été élu démocratiquement sans contestation d'aucune sorte et personne ne croit, même ses pires ennemis, aux accusations de narcotrafic proférées par Trump. De plus, la présence de groupes armés illégaux sur le territoire colombien rend toute intervention américaine beaucoup plus risquée. Ok, manifestement, pour résumer l'article, ce serait pas la même, quoi. Une intervention en Colombie, ce serait pas la même, ce serait beaucoup plus compliqué pour l'armée américaine et pour Trump que ce qui s'est passé au Venezuela. Il y a Ghost Wawa qui dit, de toute façon, pour partir en guerre contre la Colombie, il aura besoin d'un accord du Sénat, ce qu'il n'aura pas. Mais il n'a pas consulté le Congrès pour l'intervention militaire au Venezuela, alors qu'il aurait dû. Headshot. Ah, petit coup de snipe, là. Pas beaucoup joué à Valo ces derniers jours. Et puis, vous avez Cuba aussi. Cuba. Vieille obsession et prochaine cible peut-être. Après l'opération militaire à Caracas, qui a coûté la vie à 32 soldats cubains, l'administration Trump mise sur l'effondrement du régime communiste de l'île, en proie à une crise économique profonde et à un exode massif. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Cuba ? Bon, déjà, on apprend que 32 soldats cubains ont été tués au Venezuela lors de l'opération militaire américaine. Dans l'entourage présidentiel, on compte sur un effet domino. Personne n'incarne ce pari plus ardemment que Marco Rubio, qui a des origines cubaines par ses parents, hein, qui est le secrétaire américain, secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, fils d'exilé cubain, pur produit de la politique floridienne. Il a fait de la chute de ce régime castriste à Cuba une cause personnelle. Voilà. D'ailleurs, samedi, le monsieur a lancé un avertissement à peine voilé. Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet. Son ancien collègue au Sénat, Lindsey Graham, a résumé l'état d'esprit dominant au sein de l'administration américaine. Attendez de voir Cuba, leurs jours sont comptés. Cet optimisme repose sur la situation économique désastreuse de Cuba, ce qui est un fait, nourri par l'incompétence du régime, autant que par le blocus américain, et le durcissement des sanctions par Trump. Le PIB cubain a chuté de plus de 11% depuis 2020. Le tourisme poumon financier de l'île s'est effondré avec la pandémie de Covid-19 et ne s'est pas relevé. avec une fréquentation en baisse de 20%. 2025 pourrait devenir la pire année jamais enregistrée. Je vous le laisse celui-ci. L'inflation a laminé les salaires, le réseau électrique, vétuste et sous-financé, provoque des coupures quotidiennes et la récolte sucrière a atteint un plancher historique. Merci Sugar. À cette dégradation structurelle, la pire depuis la disparition de son parrain soviétique, s'ajoute une crise sanitaire profonde. Les épidémies de dengue, de chikungunya et du virus d'oropouche ont frappé une population affaiblie par la malnutrition et la pénurie de médicaments. Plusieurs dizaines d'enfants en sont décédés ces derniers mois. Le système hospitalier, jadis vitrine du régime, peine à assurer les soins de base. L'exode est massif. Entre 10 et 25% des Cubains auraient quitté le pays depuis 5 ans. La capture de Maduro menace désormais la dernière bouée de sauvetage énergétique de l'île, puisque le Venezuela fournissait du pétrole à Cuba. Malgré le recul, les livraisons vénézuéliennes de pétrole brut et d'essence atteignaient encore 27 000 barils par jour, un quart des besoins cubains. Donc en fait, du côté de l'administration américaine, on dit qu'il n'y a qu'à attendre que le fruit tombe, quoi. Cuba est en train de s'écrouler tout seul. Pourtant, le scénario d'un basculement politique se heurte à une réalité tenace, l'absence d'opposition viable sur l'île. Un changement de régime est peu probable en l'absence d'une opposition plus unifiée. Les principales figures de l'opposition ont pour la plupart été exilées ou emprisonnées. Même l'hypothèse d'un soulèvement reste incertaine. Il existe chez les républicains comme Rubio la croyance qu'une fois le pétrole vénézuélien coupé, l'économie cubaine va s'effondrer et déclencher une révolte populaire. Mais ce qu'on a vu à Cuba, c'est que la situation peut se dégrader sans limite, sans pour autant provoquer un soulèvement. Par contre, les Cubains continuent de fuir le pays, quoi. Entre les calculs de Washington et la réalité cubaine, le fossé demeure et il pourrait devenir explosif. Il y a Lazarette qui dit un truc intéressant. Trump a également un fantasme venant de sa vie de magnat immobilier, relancer le Cuba d'avant Castro, qui était économiquement sous contrôle américain, avec des casinos américains, de l'immobilier américain, hyper intéressant. Quoi, un gigantesque club de vacances, quoi. Rappelons-nous que c'était aussi le projet de Trump pour la Palestine, hein, une riviera. En fait, le mec est un agent immobilier, quoi. Allez, un promoteur immobilier, pour être sympa. MMG, t'as vu ? Connecté, hein. Intéressant. Il y a El Chino qui dit oui, alors un poil plus agressif que notre Stéphane Plaza, même s'il n'est pas net non plus. Oula. Je ne l'avais pas vu arriver, le Stéphane Plaza. J'avoue, je ne l'avais pas vu là. Voilà les amis pour cette page de 1h15 quand même, hein, consacrée encore ce matin au Venezuela. Ça me semble être un sujet important, on y reviendra dans les prochains jours. Il me reste un petit peu de temps, il me reste une heure pour vous parler de tout le reste de l'actualité. On lance un expresso, pas de pub, juste du silence et le bruit doux et merveilleux de vos échanges dans le chat d'amour. Pourquoi personne ne calme définitivement Trump, écrit Della Zavatta. Il attaque, menace quand même beaucoup de pays. Pourquoi il ne s'allie pas pour mener une vraie réponse, riposte. Voy. Waouh. Peut-être parce qu'ils ont peur, non ? Allez, j'arrive. Petit café. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai les pieds qui collent. Hein. J'ai les pieds qui collent, je sais pas ce que j'ai foutu avec mon Swiffer là. Pourtant, je suis un as du Swiffer, c'est un truc que je maîtrise plutôt bien. Je sais pas ce que j'ai foutu avec le Swiffer, j'ai les pieds qui collent dans tout le studio là. Ça a fait pipi à côté, mais pas du tout. C'est affreux, c'est affreux. Comment ça, tant que t'as pas la caquette qui colle? Hein, quoi? Non, non, j'ai rien renversé. Non, 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 je sais pas, c'est une Swiffer. J'ai les pieds qui collent. Je sais pas. Comment ça, c'est les fuites qui commencent? Comment ça, la bandeau, le Swiffer? Ça va pas, vous? J'arrive. C'est affreux ce bruit, moi qui suis maniaque. C'est quoi ton VPN, Samuel? J'ai pas de VPN. Ah, vous avez entendu Scrooge, Scrooge? C'est affreux. Allez, sujet suivant, let's go. Le cornu face aux crises. Ah, bah oui, bah quand même. On dirait le solde d'un McDo à 23h, j'adore. Oui, mais il se passe des choses aussi dans notre pays, quand même. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de le cornu, on en était du budget, tout ça. Et pour cause, nulle part. Hein. Mais pourquoi Samuel Etienne n'a pas parlé du budget depuis de longues journées? Bah, parce qu'il ne se passe rien, en vrai. Hein. C'est toujours la même chose. Mais on fait quand même un petit point, là, quand même, en ce début d'année, sur où on en est, gouvernement, par rapport au budget, par rapport à tout ça. Bon, c'est pas foufou, hein. Budget, agriculture, santé, les crises s'enchaînent pour Sébastien Lecornu, pour ceux qui l'auraient oublié, donc c'est le Premier ministre français, qui a fait sa rentrée lundi avec un menu chargé. Entre l'adoption du budget, la crise agricole et une nouvelle crise internationale, il n'a aucun répit. Lecornu avait achevé l'an dernier sans budget pour 2026, hein, et face à une crise agricole loin d'être achevée, eh bien il attaque la nouvelle année sur la même équation. Avec en plus une petite crise internationale, donc le Venezuela. Depuis son accession à Matignon en septembre dernier, le Premier ministre n'a eu aucun répit avec ces crises qui s'enchaînent. Ouais, on va pas les plaindre non plus. Hein. Moi personnellement, c'est pas un job qui m'intéresse. Je trouve que c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de soucis. Puis tu peux pas jouer à Valo. Mais quand tu postules à ce type de poste, Premier ministre en général, hein, tu sais ce qui arrive quoi. Un menu maxi best-of, exactement. Pour le gouvernement, c'est un peu ça. La rentrée du gouvernement s'est faite lundi selon la coutume, petit déjeuner place Beauvau, ça on s'en fout, blablabla. Bla bla. Voilà, au menu, la situation internationale, le budget et la crise agricole. Le locataire de Matignon a besoin d'un budget pour accroître les dépenses des armées, hein, dans l'enveloppe prévue de 6,7 milliards d'euros. Le contexte international est venu le rappeler d'ailleurs, hein, l'urgence d'arriver à voter un budget n'en est que plus forte aujourd'hui, notamment pour augmenter le budget de l'armée française. Hein, le message a été martelé tout au long du week-end par Bercy. En pénétrant dans l'Elysée en compagnie du gouvernement, Lecornu a bien choisi les ministres qui l'entouraient, Catherine Vautrin aux armées, Annie Genevard, agriculture, Stéphanie Rist, santé, qui est aux prises avec une grève des médecins libéraux, lancée ce lundi. Il faudrait que je vous en parle aussi. Hein. J'avais plusieurs articles ce matin, mais... Je ne vous ai pas trouvé foufou, mais je pense que je vais vous en parler dans les prochains jours. Là, on est dans les échos, pour ceux qui posent la question. Mais sur le budget, la réalité est encore au blocage. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé ces derniers jours, ça n'a pas beaucoup bougé. À l'heure actuelle, le point de convergence n'est pas atteint de toute évidence. Bercy veut croire qu'il y a encore une volonté d'y arriver. Du côté des groupes parlementaires. C'est un truc qui nous rappelle quelque chose. Le Premier ministre y croit aussi. Si les calculs politiques sont mis de côté... Ah, dans la phrase, il y a un basculement qui est génial. Le Premier ministre croit lui aussi à la volonté des groupes parlementaires d'y arriver, à un accord sur le budget. Et la suite de la phrase est géniale. Si les calculs politiques sont mis de côté, ça va être chaud. Les positions de la droite, notamment sénatoriale et de la gauche, en fin d'année dernière, ont montré aucune voie de passage et seule la volonté de tourner la page pour se plonger dans les municipales pourrait être décisive. Genre, allez, on se fait un budget, les gars, comme ça, on passe à autre chose, quoi. Parce que pendant que les députés et les sénateurs se penchent sur le budget, ils se penchent pas sur d'autres réformes, quoi. Les échanges vont se poursuivre avec la droite sénatoriale et cette dernière devra dire si elle souhaite participer à une solution de compromis ou non. Donc, pour le budget, voilà, c'est pour ça que je ne vous en ai pas trop parlé. Rien de nouveau, on verra bien ce qui se passera dans les prochains jours. à ce jour, 6 janvier 2026, la France n'a toujours pas de budget pour son année 2026. Rendez-vous avec les agriculteurs. Sébastien Lecornu a également besoin d'un budget pour répondre à la colère des agriculteurs. Et là, on va parler du Mercosur dans un instant. Entre le Mercosur, dont l'adoption est prévue dans les tout prochains jours, eh oui, malgré l'opposition de la France, et la dermatose nodulaire contagieuse, cette maladie qui touche les élevages bovins dont je vous ai beaucoup parlé aussi ici en fin d'année, le monde agricole est en éruption depuis plus d'un mois et ne donne aucun signe réel d'apaisement. Le Premier ministre a commencé ses premiers rendez-vous de l'année avec les syndicats agricoles. Il va annoncer des mesures le plus rapidement possible, et pour cela, il a besoin d'un texte, et sans doute de sous. La colère ne concerne pas que le monde agricole, puisque les médecins libéraux, je ne sais pas s'il y a des médecins libéraux dans le chat, ont entamé un mouvement de grève lundi prévu pour durer 10 jours. C'est pour ça que je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Nommé pour réussir là où ses deux prédécesseurs ont échoué, Sébastien Lecornu se trouve acculé, l'opinion s'impatiente. Selon une étude Elab pour BFM TV, les quatre mots arrivés en premier pour évoquer la situation française sont inquiétude, exaspération, colère et lassitude. Okay. Ils sont en grève, ils ne peuvent pas être dans le chat. Bah si, justement, ils sont en grève, donc ils peuvent être dans le chat. Clamakin me dit, ils ont raison les médecins libéraux. Je vous promets que je vais en parler dans les prochains jours. Il n'y a que des médecins libéraux, géostratèges et poétologues sur le chat Twitch, me dit Lesser Max. Sur ce chat, oui, parce que nous sommes sur un chat de qualité. Voilà. Les autres chats, on les connaît, les autres chats. Hein. C'est des bilos, c'est compagnie. Hein. À un moment, il faut dire les termes. Hein. Ici, on est sur une communauté. Le gratin. La crème de la crème. Hein. Une forme de d'élite. Les autres, hein, je plaisante bien sûr. D'autant que je suppose que je vous partage avec d'autres chaînes. Et Babar qui dit, ah, je me suis trompé de chat. Désolé. La crème de la crème, échoue au SMIC. Bah, ça n'a rien à voir avec les revenus, ça. Il y a des gens pas très intéressants qui gagnent beaucoup de sous. Hein. Uriel, perso, je suis un abruti, dit Uriel. Quelqu'un qui dit lui-même qu'il est un abruti prouve par la démarche qu'il ne l'est pas. On est d'accord. Le principe du con, c'est qu'il ne sait pas qu'il est con. Ce qui est fascinant chez le con, le vrai con, c'est qu'il ne sait pas, qu'il ne suppute pas. Il a des années-lumière de commencer à deviner que peut-être il est con. Le con, le vrai con. Mais le gars dans le chat qui dit « Moi, je suis débile. Comment tu dis ? Je suis un abruti ? Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je suis un abruti. Bah, c'est pas un abruti. Il le démontre. Comment ça, regarde Trump, il ne doit pas savoir. Oh, oh, oh. Salut Samuel, on est en train de corriger notre BTS blanc et le sujet, c'est question pour un champion. C'est trop mignon. Je vous embrasse. Donc voilà pour on en est de Lecornu. Et maintenant, il faut que je vous parle du Mercosur. Le Mercosur. Cet accord de libre-échange entre plusieurs pays d'Amérique du Sud et l'Union européenne, discuté depuis des années et des années et des années, voilà, dénoncé par certains agriculteurs français, voilà, comme quoi le marché européen et français serait submergé de produits agricoles et de viande notamment sud-américaine, de moindre qualité. Le président Macron s'en est ému et il y a quelques jours, c'est notamment allié avec la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, c'est Meloni, hein, c'est ça, pour bloquer la signature du Mercosur. Et là, les échos sont en train de nous dire que, du coup, je change de thème, que eh bien, l'accord va être approuvé. L'accord avec le Mercosur en passe d'être approuvé. Hein, la signature de l'accord commercial pourrait intervenir en début de semaine prochaine. L'échéance se rapproche à grands pas. L'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Mercosur, c'est quoi ? C'est Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, pourrait être signé dès lundi prochain par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Alors que la colère des agriculteurs français est loin d'être retombée, l'exécutif européen s'apprête quand même à franchir le pas. L'éventualité d'un accord s'est d'autant plus rapprochée que l'Italie, un temps aux côtés du gouvernement français, a décidé finalement de soutenir la finalisation de l'accord. Ça, je l'avais un peu annoncé. Hein. Celle-ci devra intervenir lors de la réunion vendredi, blablabla, 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 c'est du blabla ça. Blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. En particulier pour rassurer la partie française, le seuil de déclenchement des clauses de sauvegarde devrait être une nouvelle fois abaissé, des clauses qui pourraient être invoquées dès une hausse de 5% des importations de produits agricoles en provenance d'Amérique du Sud et non plus 8% proposées jusqu'ici. Voilà, donc là, ces derniers jours, le ratification de l'accord a été bloquée. Voilà, mais l'Italie, qui s'était alliée à la France dans ce blocage, finalement, s'est retirée. Sans les Italiens, la Hongrie, la Pologne et la France, qui sont les trois pays qui restent opposés à ce Mercosur, ne seront plus en mesure de former une majorité pour bloquer, une minorité de blocage, pour bloquer l'accord. La signature de l'accord commercial entre l'Europe et les quatre pays d'Amérique latine n'a jamais été aussi proche. Il créera l'un des plus vastes marchés du monde, avec plus de 720 millions de consommateurs potentiels. Alors pour résumer, les articles sur le Mercosur qu'on a lus les derniers mois, ça disait quoi ? Ça disait qu'il y a une partie des agriculteurs français, une partie seulement, qui effectivement sont inquiets, notamment les éleveurs. Parce qu'ils craignent d'être débordés par des importations massives de produits sud-américains, à la fois de bonne qualité et surtout beaucoup moins chers. Mais certains économistes disent que pour l'Union européenne, je ne fais que citer ces économistes, l'accord, c'est presque un accord de rêve pour l'économie européenne, parce que l'Union européenne a obtenu l'ouverture des marchés de ces pays sur le plan industriel, des ventes d'automobiles, de l'industrie pharmaceutique, à un niveau qui est inespéré pour l'Union européenne. Et que, globalement, l'accord serait extrêmement, extrêmement positif et favorable à l'Union européenne. Mais, en revanche, certains agriculteurs français, certaines filières, elles, pourraient être durement touchées. Donc la question c'est ça. Est-ce qu'il faut sacrifier cette partie d'agriculture française selon l'argument que globalement l'accord est positif ? Tu as raison, sans cette cible, et c'est juste d'un point de vue économique. Tout à fait. Et vous avez raison, ça profite surtout aux pays industriels, notamment l'Allemagne. Oui, vous avez raison, ça pose la question de la qualité de la nourriture. Tequila, en gros, au global, c'est positif, mais les agriculteurs font partie du prix à payer. C'est ainsi que c'est présenté par certains économistes, en effet. C'est surtout ultra favorable aux Allemands, dit Curosi, et sacrifier son grenier à nourriture, c'est hyper risqué dans ce monde d'embargo. Pandarou, notre souveraineté alimentaire sera donc aux mains des pays d'Amérique du Sud. Au moindre quoi qu'on fait quoi, on mange du gravier. Pas très bon ça. Samoussa écrit. Après, c'est aussi à nous, les consommateurs, de faire en sorte de consommer plus local afin de ne pas trop mettre en danger les agriculteurs. Bulbu Bonito, c'est une honte cet accord, on n'a rien appris du Covid, de la crise sanitaire et de la dépendance alimentaire. Cyril, qui a beaucoup d'humour, le mec il s'appelle Samoussa et il parle de consommer, local. Il s'appelle comme il veut. Hein. S'il veut s'appeler Samoussa, il s'appelle Samoussa. Hein. C'est fou ça. À côté de ça, on disait la même chose de l'accord avec le Canada, rappelle Méliam, mais maintenant on n'en parle plus, la fameuse submersion n'a jamais eu lieu. Quelqu'un répond, disait tout à l'heure, bah, il suffit de consommer local, de faire attention à ce qu'on mange. Et claquer au sol répond, j'ai l'impression que c'est toujours aux consommateurs d'avoir la responsabilité de soutenir nos producteurs locaux à l'heure où le pouvoir d'achat est réduit pour nombre de foyers. Sifreguir, je n'arrive pas à comprendre comment les pays d'Amérique du Sud peuvent venir vendre leurs produits alimentaires chez nous alors qu'il y a 30% de sous-alimentés chez eux. Je pense que tu as la réponse à ta question. C'est l'industrie agroalimentaire sud-américaine qui nous vend. Mon beau-père est éleveur limousin, me dit Infini Koga. C'est une catastrophe pour les petits agriculteurs. Ça va être des dizaines, voire des centaines de petites entreprises agricoles qui vont finir par être obligées d'arrêter. Tequila 91, toujours pareil, la question du choix alimentaire. Les pauvres achètent ce qu'ils peuvent. Et s'ils peuvent se permettre un steak chilien mais pas un steak français, il achètera chilien, il n'a pas le choix. Yanucci qui dit, voilà, arrêtez d'aller au supermarché, allez dans les fermes ou chez les maraîchers, laisser notre alimentation à des grosses entreprises n'est pas bon, on vote avec notre CB. Encore faut-il avoir de l'argent sur la CB. Hein? Merci pour vos échanges, c'est cool. On est clairement sur la démonstration qu'on part d'un article, je vous donne des infos, et les échanges que je vois dans le chat viennent, je trouve, hein, à mon sens, enrichir en fait notre perception du sujet. Maintenant, je vous parle du logement. Et certains vont me dire, les habitués, mais encore, mais on n'en peut plus, Samuel Etienne. Et la crise du logement par-ci, et la crise du logement par-là, oui, c'est l'une de mes marottes. Voilà. Je trouve que la crise du logement est un sujet qui est sous-exposé médiatiquement et sous-traité politiquement. Voilà. C'est un scandale. C'est un sujet de préoccupation pour de plus en plus de Français. Et on n'en parle pas. Voilà. Et Diesel me dit, on n'en peut plus. Snow me dit encore, oui. C'est l'un de mes combats. Et ce sera aussi l'un de mes combats quand je serai candidat à la présidentielle en 2027. Et c'est quelque chose que je prendrai en main quand je serai élu dans la foulée. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de ça. Merci Le Monde d'en parler. Ce matin, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi il est de plus en plus difficile de se loger en France. La crise est si aiguë qu'elle s'impose aujourd'hui en tête des préoccupations pour les élections municipales de mars. Ah quand même ! Hein ? En raison d'une croissance insuffisante du parc immobilier, la difficulté à se loger touche aujourd'hui toutes les catégories sociales, et plus seulement les populations précaires. La pénurie est telle qu'elle concerne tous les âges, des étudiants aux familles qui aimeraient s'agrandir en passant par les seniors, après 2 années de chute historique des ventes et des mises en chantier. Sur fond de forte hausse des prix et des taux d'emprunt, le secteur du BTP reste enlisé. Lisons le dossier, pages 14 et 15, dans la dernière édition du Monde. C'est où ? C'est là. La crise du logement s'aggrave, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde. Et la difficulté à se loger touche désormais tous les âges, toutes les catégories sociales, sur une large partie du territoire. La précarité arrive à grands pas, confie Marion, c'est une femme de 56 ans, qui est DRH, qui a été licenciée au début de 2025, et qui peine depuis à retrouver du travail. Ses revenus étaient autrefois confortables, et pourtant, après une parenthèse passée dans le sud de la France au moment de la pandémie de Covid-19, elle doit se rabattre sur un logement meublé avec un loyer élevé, lorsqu'elle revient en région parisienne, faute de trouver une location classique. Aujourd'hui, 56% de mes indemnités de France Travail passent dans le loyer de mon logement, 56%. Le reste est à peine suffisant pour le paiement des charges, des besoins essentiels, téléphone, internet, la mutuelle, la nourriture. explique-t-elle. Au chômage, sans bulletin de paie, je suis coincé, je ne peux pas rechercher un autre logement. Les propriétaires prennent des assurances contre les loyers impayés et ces assureurs exigent des garanties et notamment un CDI. La difficulté à se loger touche aujourd'hui toutes les catégories sociales et plus seulement les populations précaires. La crise est si profonde qu'elle concerne tous les âges, les étudiants, les jeunes ménages, les familles qui aimeraient s'agrandir jusqu'aux seniors. Si les territoires les plus attractifs, métropoles, villes étudiantes, zones touristiques, se retrouvent en première ligne, sont des zones de tension. La question du logement abordable se pose désormais dans une large part du pays. Je vais vous lire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions, quoi. 7 Français sur 10 affirment en effet qu'il est devenu difficile de se loger dans leur commune. 7 Français sur 10. Si les ménages placent le pouvoir d'achat en tête de leurs priorités, le logement devance de très très loin tous les autres postes de dépenses puisqu'il pèse pour un tiers de leurs revenus. En général, c'est la norme, à peu près un tiers du revenu pour le logement. Salut de Katoffel. En 20 ans, les prix hors inflation du logement ont progressé de 88%. Ça n'est pas une vue de l'esprit. En 20 ans, les prix hors inflation du logement ont progressé de 88%, alors que le salaire moyen n'a augmenté que de 13%. Si on enlève l'inflation, pour comparer ce qui est comparable, les prix du logement ont augmenté en 20 ans de 88%, alors que le salaire moyen n'a augmenté que de 13%. Voilà. Ça n'est pas une impression, ça n'est pas un sentiment. Voilà. Les chiffres le disent. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté comme il aurait dû pour pouvoir suivre l'augmentation du prix du logement. Merci Yann, merci pour le soutien. Comme le montre l'indice de l'économiste du logement Jacques Frigitte, c'est à partir des années 2000 que les prix de l'immobilier résidentiel se sont mis à augmenter beaucoup plus vite que les revenus des ménages. Pour acquérir le même bien, un accédant doit s'endetter sur une durée de 25 ans fin 2024 contre 15 ans seulement, 10 ans de différence, en 2000. Avec un taux d'effort plus important et un pouvoir d'achat en conséquence réduit. Ça n'est pas une impression que ceux qui veulent accéder par exemple à la propriété aujourd'hui aient un effort à faire beaucoup plus important qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ça n'est pas une impression que pour se loger aujourd'hui quand on est locataire, eh bien on paye beaucoup plus cher qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, etc. Alors pourquoi, comment ? Parmi les facteurs expliquant cette hausse des prix figure la baisse des taux d'intérêt et l'allongement de la durée des prêts à l'habitat qui permettent de s'endetter davantage que par le passé, ou bien des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif comme l'Eurobien ou le Pinel. Mais la crise du logement abordable est surtout alimentée par le déficit d'offres et une demande en hausse, particulièrement dans les zones tendues. D'un côté, le nombre de ménages augmente en France en raison de la croissance démographique. Bon, ça va se calmer bientôt vu qu'on fait plus de bébés. Mais aussi des séparations et de la décohabitation. Il y a aussi plus de séparations, il y a plus de divorces qu'avant. Et donc, il y a plus de besoins. Un couple qui se sépare, et il y en a plus qu'avant, on a besoin d'un logement en plus. En 2019, la taille moyenne d'un ménage était de 2,19 personnes, contre 3,08 en 1968. Pourtant, depuis 2010, la croissance du parc de logements s'atténue. On a plus de besoins de logements, mais on a moins de logements proposés. Le nombre de logements augmente de 0,9 par an depuis 2018 contre 1,2% par an entre 2000 et 2009. Et qui plus est, au cours de la décennie 2010, la part des logements vacants et des résidences secondaires a fortement augmenté. Logements vacants, résidence secondaire. On n'a pas parlé d'Airbnb encore. Airbnb, je sais que certains défendent ce modèle ici. Oui, ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Mais Airbnb, c'est la cerise sur le gâteau qui vient retirer plein de logements qui pourraient servir à du logement à long terme, quoi, du logement, quoi, pour être proposé sur le marché du week-end et du tourisme. Je vous lis un petit peu. Alors, il y a Vanitas qui écrit les Airbnb dénaturent complètement le vieux Nice. Paris semble de plus en plus gangréné par le surtourisme. SNO, Airbnb, belle merde, oui, car ça permet de faire un complément de salaire pour certains, mais d'autres font louer toute l'année au Airbnb et c'est le problème. Il y a Pandarou qui nous parle d'une vidéo du journal Les Échos sur le Airbnb qui est vraiment édifiante. Wawox nous regarde depuis Amsterdam et nous dit qu'aux Pays-Bas, il manque également 400 000 logements. Saint-Malo, alors il y a eu des mesures prises à Saint-Malo, Johan, je ne sais pas si ça a marché. Saint-Malo, bel exemple de dérive du Airbnb. Il y a des communes qui ont commencé à prendre des mesures. Hein. Il y a, si quelqu'un a un logement à louer à Lyon, il y a Gubano qui cherche un logement à Lyon. Gouubano. Tu vois, il y a des mesures comme à Gujan-Mestras, me dit Walcriso. Les locations saisonnières sont désormais limitées à 3 mois par an. Résultat, des Airbnb reviennent sur le marché du locatif. Quand c'est respecté, quoi. Quand c'est respecté. Ah, il y a Falco, F7ALCO, qui cherche un appart sur Paris, Paris 9, Paris 10. N'hésitez pas si vous avez des idées, des propals dans le chat. Donc je poursuis ma lecture, pardon, je me suis fait une petite parenthèse Airbnb. Les aspirations des Français par ailleurs évoluent avec une attraction croissante des métropoles et du littoral. Il y a une plus grande concentration et les Français qui sont peut-être plus mobiles et qui cherchent à aller. Plus vers les grandes villes et le littoral, là où se concentrent emploi et tourisme, parfois aussi qualité de vie. Hein. On pense aux gens qui sont allés près du littoral ces dernières années. Un désalignement structurel de l'offre par rapport à la demande, déjà à l'œuvre lorsque la crise a éclaté en 2022, avec pour déclencheur une hausse des taux d'intérêt. Et là, on revient sur cet épisode de la hausse des taux d'intérêt. Pour combattre l'inflation galopante au commencement de la guerre en Ukraine en février 2022, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a relevé brutalement ses taux. Un rythme inédit dans l'histoire de l'Institut monétaire. Les banques répercutent cette hausse ensuite sur les emprunts immobiliers aux particuliers, resserrent le robinet à crédit. De nombreux ménages ont renoncé à l'époque à devenir propriétaires en raison de la hausse des taux. Voilà. Les transactions immobilières s'effondrent aussitôt. Dans le neuf, la construction s'est stoppée net. Les ménages qui ne peuvent plus acheter, que font-ils? Eh ben, ils restent dans leur location, du coup des logements qui ne sont pas disponibles pour d'autres foyers. Ce gel du marché empêche de nombreux jeunes de prendre leur autonomie et bloque les modalités. Donc il y a eu un accroissement de la crise avec cette hausse des taux immobiliers. Après plus de 3 ans de turbulence, de premiers signaux de relance commencent à apparaître, en particulier sur le marché de l'ancien, grâce à une baisse puis à une stabilisation des taux d'intérêt en autour de 3%. Aujourd'hui, et donc au recul du coût du crédit. Je me rappelle d'une époque, il y a quelques années, j'ai réemprunté pour acheter l'appartement où je suis en ce moment. Donc j'ai emprunté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais à un taux d'intérêt qui était, vous vous rappelez, une époque, on était autour de 1%. Voilà. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion pour emprunter beaucoup d'argent à un taux très, très, très bas. Voilà, il y a quelques années, on avait des taux de fou comme ça. Bon, maintenant, il faut que je rembourse, quoi. C'est le problème. Mais bon, quand on veut 200 enfants, à un moment, il faut assumer, quoi. Mais du coup, j'ai emprunté au bon moment, quoi. C'était pas 11? Ouais, non, mais. Ouais, ou 11 enfants, 11, c'est bien, 11, une équipe de foot. Ouais, j'ai emprunté autour de 1%, moi, à l'époque. Donc, après plus de 3 ans de turbulence, les taux se stabilisent autour de 3%, ce qui est un peu mieux quand même. Voilà. Fin septembre 2025, les notaires enregistrent une hausse de plus de 10% des ventes sur un an. Donc, ça repart un petit peu. Alors, une hausse des ventes de biens immobiliers, c'est une bonne nouvelle parce que si des gens achètent, ça peut libérer aussi des biens à la location, quoi. À condition que ça parte pas sur le marché du Airbnb, bien sûr. Merci Firmus pour le soutien. Merci pour la participation au remboursement de l'emprunt. Le secteur du neuf reste en revanche fragile, ça construit pas beaucoup. Hein. Sur les 12 derniers mois, seuls 272 700 logements ont été mis en chantier, 22% de moins que la moyenne des 5 années précédentes. Étiage historiquement bas, au point que dans sa proposition de loi, la sénatrice des Alpes-Maritimes, LR, Dominique Estrosi Sassone, veut fixer des objectifs de construction à l'échelle nationale qui devraient tendre vers les 400 000 logements. Comment on va arriver à ça, ça je ne sais pas. La panne de l'accession à la propriété des dernières années, couplée à l'engouement massif des propriétaires... Merci d'en parler. Merci. À l'engouement massif des propriétaires bailleurs en faveur des locations saisonnières, bien plus rentables que les locations classiques, et à une vague de ventes d'appartements passoires thermiques qui ne pouvaient plus être loués, ont conduit à une pénurie dramatique sur le marché locatif. Et un report sur le parc locatif social, puisque 2,9 millions de ménages sont désormais en attente d'un logement HLM. La crise est si aiguë qu'elle, vous vous rendez compte, presque 3 millions de ménages. Ménages, c'est plusieurs personnes. Hein. Ça peut être deux, ça peut être plus. Hein. La crise est si aiguë qu'elle s'impose aujourd'hui en tête des sujets dans la campagne des élections municipales de mars 2026. Il serait temps qu'on s'en occupe. La difficulté de se loger à des prix abordables a été un véritable frein à l'emploi depuis 3 ans. Et oui, parce que parfois, on nous propose un emploi d'une zone géographique, mais on n'arrive pas à s'y loger, et a contribué aux tensions sur le marché du travail. Donc, cette crise de l'immobilier, elle est aussi liée au marché du travail. Et elle est désormais considérée comme un frein à la natalité. Il y a eu des enquêtes là-dessus ces derniers temps. On sait aussi que l'une des raisons pour lesquelles les Français, l'une parmi d'autres, hein, les Français font moins d'enfants, c'est parce que, notamment, les Français n'arrivent pas à accéder à des logements plus grands pour accueillir ce deuxième ou ce troisième enfant, ou ce quatrième, ce cinquième, ce sixième, ce septième, ce huitième, ce neuvième, ce dixième ou ce onzième, ce qui est l'objectif à la maison, mais on n'en a que deux pour l'instant. Ou le premier. Voilà, leak sous Twitch. Leak sous Twitch. Avec mon conjoint, on aimerait acheter, mais c'est si dur d'accéder à l'achat pour notre génération, c'est fou. Ça n'est pas un sentiment, c'est vrai. Pour cette génération qui arrive là, sur un âge où il pourrait accéder à la propriété, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile qu'avant. Hein. Avec mon conjoint, on aimerait acheter, mais c'est si dur d'acheter à l'achat pour notre génération, c'est fou. On voudrait aussi faire un enfant, mais du coup, on est obligé d'attendre. Let's go, c'est QFD. Hein, on aimerait quand même se sécuriser avec un achat d'appartement avant. Ben oui. Voilà, je confirme, me dit Sassou, j'ai eu ma deuxième fille cette année, nous cherchons plus grand, mais c'est compliqué. Onze enfants pour une équipe de foot, c'est long à créer, il faudrait 11 femmes. Non, moi je n'en ai qu'une, je n'en veux qu'une, donc non. Ça n'est pas possible. Non, on va essayer de faire ça tous les deux. Encore 9. Oh, c'est pas. Merci Captain Icarus. Une étude récente, me dit Fabstar, a démontré qu'il fallait épargner deux fois plus longtemps qu'aujourd'hui que la génération de nos parents. Ouais, c'est ça. C'est deux fois plus dur. Au moins deux fois plus dur. Attends, Captain Icarus, tu étais... Attends, tu étais à Crans-Montana ? Attends, Captain Icarus, tu étais à Crans-Montana ? Tu étais dans le bar Constellation ? C'est ça que tu es en train de me dire ou pas ? Ou le fait que tu aies été brûlé à une autre occasion fait que tu connais bien le sujet ? Excuse-moi, je cherche à comprendre ton sujet. ton message. 28 ans avec ma conjointe, on ne se voit acheter que pour un petit locatif pour étudiants, me dit Johan, donc pas pour nous, donc pas de chambre en plus, donc pas de premier enfant. Alors moi j'ai la chance d'avoir acheté très tôt à Paris, à une époque où les prix de l'immobilier étaient beaucoup plus bas, hein, au début de ma vie professionnelle. Donc j'ai régulièrement emprunté et beaucoup emprunté, et je l'ai fait sans arrêt. C'est-à-dire que, un peu par hasard, je voyais les prix de l'immobilier monter. Mais à chaque fois, en gros, quand je terminais de rembourser un truc, bah je reprenais un emprunt. Et ça m'a permis de suivre ce marché immobilier. Aujourd'hui, si je devais me loger aujourd'hui au prix de l'immobilier parisien, je n'y arriverais pas, quoi. Et en fait, je vis dans des conditions aujourd'hui qui sont permises par le fait que j'ai acheté il y a très longtemps. Et que j'ai continué après à emprunter, et encore 5-6 ans. Pour suivre ce marché qui était en train d'exploser, quoi. Pour le coup, là, j'ai encore un bel emprunt à la banque que je devrais rembourser au début de, finir de rembourser à peu près au début de ma retraite. C'est à peu près ce que j'ai calculé, quoi. T'as combien d'appart? J'en ai qu'un, parce qu'à chaque fois, je revendais et je prenais un peu plus grand, tu vois, avec un autre emprunt pour pouvoir. J'ai fait ça plusieurs fois comme ça. T'as combien de temps à la retraite? Bon, vers 67 ans, quoi. Normalement, je devrais rembourser mon emprunt immobilier à 67 ans. Une OP Red Shadow Legends, et on parle plus de l'emprunt. Je ne sais pas ce que c'est Red Shadow Legends, mais ça m'intéresse, Sugar. Donc là, j'ai encore. J'ai quel âge? 54? Encore 13 ans? C'est un jeu mobile qui fait beaucoup d'OP? Ok, d'accord, je connais pas. Ok. Bon, attends, là, il faut que je sauve l'heure, là. Oh, putain, il me reste 20 minutes. Il me reste 20 minutes, faut que je me dépêche. Bon, merci Le Monde pour cet article sur la crise du logement qui nous confirme que ce n'est pas un sentiment. Oh, mais je suis tellement en retard, je suis tellement en retard. Putain, je vais jamais avoir le temps de parler de la nouvelle console. Je dois vous quitter dans 17 minutes. Allez, on accélère, papy. Let's go. Ok, sujet suivant, vachement intéressant aussi. C'est dans Les Échos, c'est double page sur 10 événements importants à venir pour l'année. Voilà. Tiens, ça nous permet de parler de l'Ukraine, par exemple. On en est où de l'Ukraine, hein? Une paix qui devrait sans doute encore se dérober en Ukraine. Alors, le jeu des pronostics sur l'actualité, c'est extrêmement compliqué, mais vous avez quand même Les Échos qui nous disent que la paix en Ukraine, nous, on la voit pas pour 2026. Comment ça pour te donner un ordre d'idée, Gotaga a mis 6 chiffres dans le jeu, réinvesti des OP. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, l'Ukraine. Il serait surprenant que la guerre en Ukraine s'arrête cette année. Eh ben. Malgré les innombrables réunions diplomatiques faisant état d'avancées fructueuses pour en fait masquer du surplace, Moscou comme Kiev ne semblent pas prêts à signer un cessez-le-feu durable. Le Kremlin est obsédé par son projet de soumettre son voisin, voire de discréditer l'OTAN. Des tests sous forme d'infiltration à travers les frontières baltes ou polonaises ne sont pas à exclure en 2026, en plus des survols accidentels de drones. Vladimir Poutine ne lâchera rien, tout en continuant de manipuler son relais d'influence majeur à la Maison-Blanche à grand renfort de promesses de profits gigantesques pour les firmes américaines en Russie. Kiev, de son côté, sait que toute concession, notamment de sa ceinture clé de forteresse dans l'Ouest, sonnerait le début de la fin. La difficulté pour l'Ukraine sera de contenir une armée russe qui s'essouffle visiblement et n'a conquis que 0,6% de son territoire en 2025. Et ce, sans perdre de son côté trop d'hommes, Kiev et ses alliés européens doivent éviter la rupture avec Trump. Certains se demandent pourquoi la timidité des réactions européennes sur le dossier vénézuélien. Certains estiment que cette timidité s'explique notamment par la crainte, la peur. pardon, je lis Major Phoenix qui trouvait que le live TikTok c'était mieux. Excuse-moi. La crainte, la peur de voir Trump lâcher l'Ukraine. Certains estiment que ça explique en partie la faiblesse, la tiédeur des réactions européennes. Kiev et ses alliés européens doivent éviter la rupture avec Trump pour sauver le renseignement aérien vital jusqu'aux élections de mi-mandat aux États-Unis ou à l'effondrement désormais plausible du système bancaire russe. À suivre. Ça, c'est l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on a ? Le Proche-Orient. L'axe de la résistance en grande difficulté au Proche-Orient. La guerre ne reprendra probablement pas à Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas, tant les deux camps auraient à y perdre. Mais l'absence de combat ne signifie pas pour autant la paix, tant l'application de la deuxième phase de l'accord parrainé par la Maison-Blanche semble délicate, au point de pousser récemment Washington et Jérusalem à menacer d'une reprise des raids. Le Hamas est sans surprise déterminé à ne pas céder le pouvoir ou son armement. La reconstruction du territoire, sans même parler d'un règlement de la question palestinienne qui empoisonne le Proche-Orient depuis 80 ans. 80 ans. Et instrumentalisé par les antisémites un peu partout dans le monde, sera donc repoussé à des calendes grecques. Donc manifestement, la paix au Proche-Orient, c'est pas pour 2026, nous disent les échos. Hein ? T'inquiète, Major Phoenix. Mais je vais revenir, parce que je vois des questions, je vais vous dire dans un instant pourquoi j'ai arrêté les lives sur TikTok. Pour autant, si le Hamas survit, il risque d'être le seul parmi les composants de l'axe de la résistance au Proche-Orient qui prétendait tenir tête à Israël. Une normalisation des relations entre Jérusalem et Damas est en route. Au Liban, la milice chiite du Hezbollah devra vraisemblablement se résigner à abandonner tout son arsenal. Et surtout la pièce centrale de cet axe, l'Iran, qui finançait ses séides et pratiquait l'ingérence tous azimuts dans la région, pourrait chuter. Le régime des Mollahs est confronté depuis une semaine, je vous en ai déjà parlé ici, à une révolte plus menaçante que les précédentes, une révolte populaire, des manifestations contre la vie chère, contre le pouvoir d'achat, contre le régime des Mollahs, le régime au pouvoir en Iran. En effet, face à un mouvement qui a pris comme un feu de poudre en réaction à une inflation remontée à 52% en rythme annuel, proche sans doute des 200% cette inflation pour les produits de première nécessité, le régime ne dispose plus vraiment de marge de manœuvre. Il manque de devises suite au rétablissement des sanctions internationales à l'instigation des Occidentaux fin septembre. Plus d'argent pour acheter tant bien que paix sociale, pour payer les agents de son légendaire appareil répressif. L'horizon s'obscurcit sacrément pour la République islamique d'Iran. Ah ouais. Les échos se demandent si 2026, c'est pas la disparition du régime des Mollahs en Iran. De même que son instauration en 1979 constitua un événement historique en donnant des ailes à l'islamisme, combat politique au nom du Coran un peu partout dans le monde, sa chute constituera un événement énorme. Et déclencherait une reconfiguration spectaculaire du Proche-Orient. L'hypothèse farfelue d'un retour des monarchistes paraît même plausible, avec à la clé une normalisation des relations avec Israël. Séisme certes, mais encore hypothétique. Intéressant. Bon, je passe vite, hein. Je ne vais pas vous faire les 10 événements, mais il y a plein de choses intéressantes dans cette double page des échos. C'est à lire dans les échos aujourd'hui, n'hésitez pas à acheter les échos si vous avez un petit peu de temps. C'est pages 8 et 9. On a les élections de mid-term. Tiens, quelqu'un me disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe aux élections de mid-term, de mi-mandat aux États-Unis ? Est-ce que Trump pourrait perdre la majorité au Congrès ? Ben, il y a un petit article là-dessus. Demoiselle Amandine, bonne journée à toi. Les Républicains menacés d'une défaite aux élections de mi-mandat aux États-Unis. L'année s'annonce chargée à Washington. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla. Donald Trump pourrait avoir ses marges de manœuvre fortement limitées après les élections dites de mid-term le 3 novembre prochain. C'est bientôt, hein. Le Parti républicain risque de perdre sa majorité à la Chambre des représentants, malgré ses efforts pour redessiner les cartes électorales à son avantage. L'opposition démocrate pourrait alors user des pouvoirs du Congrès délaissés par l'actuelle majorité républicaine pour multiplier les enquêtes contre l'administration. Force, triste pain, le perse dalle. Trump veut absolument éviter de se retrouver dans cette situation. Ne pouvant pas se présenter pour un troisième mandat, il craint de sceller son statut de président en pré-retraite et de perdre la main sur les républicains. Déjà en train de se positionner pour l'après-Trump. Il a juré de remettre la lutte contre l'inflation au cœur de sa priorité. tenter de reprendre la main sur l'économie alors que les Américains blâment ces politiques protectionnistes pour la hausse des prix. Les démocrates sont donc bien partis pour l'emporter à la Chambre, où le parti au pouvoir perd généralement des sièges, mais la bataille est loin d'être jouée au Sénat. Le parti fait face à la rébellion d'une partie de sa base, tentée par un populisme de gauche qui pourrait lui coûter des voix dans certains des États républicains où les démocrates espèrent l'emporter. Oui, c'est une tradition défécator, tu as raison. Les élections de mi-mandat, de mi-terme, sont souvent assez difficiles pour les présidents au pouvoir. C'est un grand classique. Ok. Merci, Sugar. Je viens de me pencher sur l'historique. C'est assez intéressant. Alors, il y a 10 événements. Ces deux pages sont. Oui, j'ai vu, Sugar. Ces deux pages sont assez consistantes. Hein. En Venezuela, on a assez parlé ce matin. On a parlé plus d'une heure et quart. Le régime chinois sur tous les fronts. Ok. Manifestement, les temps sont durs pour le Premier ministre britannique. Cote de popularité très faible. Tiens, le mondial de foot, j'aimerais bien en parler un petit peu parce qu'on va commencer à en parler du mondial de football aux States. Voilà. Une Française dans la station spatiale internationale, je pense que j'aimerais en parler aussi. La Hongrie avec Viktor Orban challengé. Le multilatéralisme recomposé, resserré. Tout ça est passionnant dans les échos. Je vous en lis deux. Le mondial de football aux États-Unis, Mexique, Canada, là. Mondial de la démesure en Amérique du Nord. On va commencer à en parler, c'est en juillet prochain, enfin en juin et juillet. C'est une Coupe du Monde de football de la démesure, écrivent les échos, qui vont se dérouler du 11 juin au 19 juillet, puisqu'elle sera organisée pour la première fois à l'échelle d'un sous-continent entier, l'Amérique du Nord. Même si les États-Unis de Trump, qui en profitera sans doute pour se vanter d'avoir été un excellent joueur, il a joué au foot, lui? Ah, il a joué au foot, il paraît. Ok, ça je savais pas. Trump a joué au foot. Ce fut un milieu de terrain rugueux à son académie militaire en 1962. Ok. Même si les États-Unis se tailleront la part du lion, 11 des 16 villes sélectionnées contre 2 au Canada et 3 au Mexique. Espérons que la Maison-Blanche n'aura pas annexé d'ici là son voisin nordique ou coupé l'eau à celui du Sud. Les échos qui ont beaucoup d'humour. Ce tournoi s'effectuera sous haute sécurité. Les visiteurs devront carrément fournir aux autorités. Alors bon courage si vous voulez aller sur place pour suivre les matchs. Hein. Les visiteurs, on a déjà parlé ici, devront carrément fournir aux autorités l'historique de leur activité sur leurs réseaux sociaux. Ce qui pose un léger problème d'atteinte à la vie privée. Le journaliste des Échos a beaucoup d'humour. Les supporters haïtiens seront interdits. Eux, ils n'auront tout simplement pas le droit de venir, tout comme leurs homologues ivoiriens. Tu viens d'où, Côte d'Ivoire? Non, non, tu ne viens pas. Ça aussi, c'est ce qu'a décidé Trump. Sénégalais aussi. Tu veux soutenir la sélection sénégalaise? Non, tu peux pas. Tu ne viens pas. Voilà. Ce qui serait sans précédent, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pour quelle raison? Ah, parce que Trump a décrété que les personnes en provenance de ces pays étaient persona non grata aux États-Unis et ne devaient pas venir sur le sol américain. Voilà. Si, si, c'est vrai. Tout ce que je vous dis là sur le sujet, vous pouvez le trouver en deux clics dans les articles rigoureux sur Internet. Et il y a plus de pays que ça d'ailleurs. On vient d'en évoquer trois, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Le tournoi devrait coûter 7 milliards de dollars, un record, derrière toutefois celui du Qatar. Ce sera le premier événement à réunir 48 équipes au lieu de 32 auparavant. Entre matchs de poule, élimination directe et les 16e qui verront vraisemblablement quelques teneurs passer la trappe, 104 matchs seront joués. 4 pays sont qualifiés pour la première fois, le Cap-Vert, l'île Caraïbe de Curaçao, la Jordanie et l'Ouzbékistan. 16 pays européens, dont la France finaliste en 2022, essaieront de détrôner l'Argentine. Blablabla. Il y a autre chose aussi, c'est que c'est la Coupe du Monde dont les billets sont les plus chers ever. Hein. Les États-Unis, dans leur candidature, dans leur dossier de candidature à la Coupe du Monde, avaient promis des tarifs contenus pour les billets. Voilà. Ils se sont assis sur cette promesse et les billets pour assister au match seront les plus chers de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Plus cher que le Qatar, me demande Linus. Oui. Ça fait au moins deux sujets problématiques sur cette Coupe du Monde. Des billets extrêmement chers. Un, deux, des supporters de certains pays carrément interdits de venir aux États-Unis pour soutenir leur équipe. Voilà. Samuel, tu conseilles quel média sur Internet qui est à la fois bien documenté et gratuit sur l'actualité ? Celui-ci, Prune Shiny. Merci, Fatix. La matinée Étienne, tous les matins, en vrai. Non, blague à part. En vrai, t'as beaucoup de journaux qui mettent des articles de qualité en ligne gratuitement. Une partie est payante, mais pas tout. Tu vas... Moi, en vrai, je te propose de surfer sur les sites lemonde.fr. C'est les journaux que je lis, hein. Libération.fr, Le Parisien.fr, Le Figaro.fr, Les Echos.fr. Une partie du contenu est accessible sur abonnement, mais une partie du contenu est gratuite aussi. Voilà. Et t'as les articles de qualité, quoi. Je vous lis, hein. Ah oui, aussi le fait que les stades sont très éloignés et qu'il y aura beaucoup d'avions aussi, la question écologique, tout à fait. Mediapart, Luma et Blast. Ouais, alors Mediapart, auquel je suis abonné, pour le coup, c'est un mauvais exemple parce que Mediapart, la plupart des articles sont sur sont pas accessibles gratuitement, non? C'est pour ça que je suis abonné d'ailleurs. Média de qualité, mais il faut être abonné, quoi. Je crois qu'il y a assez peu d'articles. Gratuit et pour cause, hein, ils mettent pas de pub du tout Mediapart et il faut bien trouver un modèle économique pour payer les journalistes. Hein. Et Blast, je sais pas quel est leur modèle économique. Libé, Le Monde propose beaucoup d'articles gratuits. Oui, c'est vrai. Mais tous les journaux que je vous lis sur leur site internet proposent énormément d'articles gratuits en vrai. On fait ça tous les matins, Tom. On fait ça tous les matins. Tom me dit quand est-ce qu'on fait la revue de presse. Tous les matins depuis 5 ans, du lundi au vendredi. Parfois même le samedi. Enfin non, c'est tous les samedis après-midi désormais. Il est midi ? Merde, faut que je me dépêche. Tous les samedis après-midi, enfin, la revue de presse, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous les matins. Tous les matins, hein, quoi qu'il arrive. Et le samedi après-midi, j'ai même lancé la semaine dernière une revue de presse des bonnes nouvelles. Je vous mets que des bonnes nouvelles, histoire de se remonter un petit peu le moral. Et j'en ai même fait une dimanche matin, une spéciale, alors pas bonne nouvelle, celle-là, spéciale Venezuela, parce que je trouvais que c'était important d'en faire. Voilà. Bon, les amis, bon, je vous signale effectivement qu'il y a une Française dans la Station Spatiale Internationale qui va arriver. C'est la deuxième femme française seulement à aller dans l'espace. Elle s'appelle Sophie Adenau. À partir du 15 février prochain, séjour de 6 à 8 mois. Ça, c'est super. Bon, bravo à elle, hein. Elle va participer à 200 expériences scientifiques, dont 10 françaises. C'est génial, bravo à elle. Sophie Adenau, on va beaucoup parler d'elle, c'est formidable. Et on dit que ça pourrait être même la première française à monter dans le vaisseau américain Orion pour aller faire un petit tour au milieu des crêtes. Oh, hop, 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 quoi ? Ah, qui sait, aussi une interrogation. Est-ce qu'elle n'est pas allée sur la Lune, quoi ? Deuxième française sur l'ISS. Française. Après Thomas Pesquet. Thomas Pesquet n'est pas une française. Française. Thomas Pesquet n'est pas une française. Je l'ai croisé une fois, il avait l'air d'un Français. Ah oui, pourquoi TikTok? Ah oui, très vite. Oui, alors, à la rentrée, j'ai essayé de lancer des lives sur TikTok. Alors, c'était compliqué parce que je trouve que c'est pas une plateforme qui est très bien pensée pour le live. En termes d'ergonomie, de DA, déjà le fait d'avoir un écran vertical, tu peux mettre moins de choses, donc tu montrais moins bien les articles, moins bien les journaux. Premier problème. C'était caché par le chat qui a intégré au-dessus qu'il fallait mettre en bas. Enfin voilà. Il faut mettre ton visage en gros parce que si c'est de l'image fixe comme des articles, TikTok aime pas ça et il estime que c'est du je sais plus quoi. Donc enfin bon, c'est un bordel à mettre en place. On a réussi à le mettre en place. Après, c'était plutôt sympa. Après, c'était plutôt sympa. Contrairement aux idées reçues de la communauté Twitch, le chat était OK. Il était relativement comparable au chat de TikTok. Voilà. Il y avait un peu moins de modération parce qu'il y avait un peu moins de moyens de modération. Mais globalement, c'était OK. Mais ce qui m'a poussé à arrêter, c'est globalement, je trouvais que l'offre était de moins grande qualité. C'est-à-dire que la DA de TikTok Live est moins sympa. Je trouve que globalement, c'est moins bien pensé pour le live que Twitch, qui pour moi qui est la plateforme du live, quoi, et qui est vraiment très bien pensée pour ça. Et l'autre truc très important, c'est que comme j'avais deux chats, un chat TikTok et un chat Twitch, et c'est pour ça que j'ai arrêté, je faisais mention dans le chat TikTok de messages qui étaient postés sur Twitch, mais que les gens de TikTok ne voyaient pas. Donc j'interagissais avec des gens, mais les gens ne pouvaient pas voir les messages. Et j'interagissais avec des messages sur TikTok que les gens de Twitch ne voyaient pas. Et je trouvais que ça créait un peu étrange. Un truc être un peu étrange, où j'étais à la fois avec deux chats et finalement un peu moins bien avec les deux. Et ça, j'aime pas faire les choses moins bien. Donc c'est ce qui m'a décidé. Et la monétisation, la monétisation, elle était nulle sur TikTok. C'est-à-dire que j'avais calculé qu'un live TikTok me rapportait à peu près 15 centimes pour 3 heures. Donc l'idée d'aller toucher un autre public était intéressante. Parce que je pense que les gens qui sont sur TikTok ne sont pas forcément sur Twitch. Donc du coup, je trouvais ça intéressant d'aller toucher ce public-là, voilà, pour un travail que je faisais déjà de toute façon. Mais la monétisation n'a jamais été un truc intéressant pour aller sur TikTok, puisque littéralement, ça faisait 15 centimes pour 3 heures. Voilà. Clairement, TikTok n'a pas mis des moyens en avant pour pousser le live, quoi. Ou 80 centimes peut-être, je ne sais plus. Ouais. Tu as raison. Voilà, donc voilà. Mais c'était pas à la base, de toute façon, c'était pas le. J'étais pas allé pour ça, puisque depuis le début, ça rapportait rien. J'y allais en me disant, tiens, je vais aller toucher une partie du public là-bas, quoi. Mais je trouve que l'outil est beaucoup moins bien pensé pour le live que sur Twitch, quoi. Voilà. Allez, les amis, j'ai mon rendez-vous à 12h30. Je vais y aller à pied, mais ça va aller, même si je vais pas très très vite à cause du verglas. Prenons le temps d'un dernier article. Dernier article. Hop, sur cette console. Alors, moi j'étais un peu hypé, puis vous beaucoup moins. Certains m'ont dit, ouais, elle est nulle cette console. Regardez, c'est dans les échos encore. Excellent écho, il y a plein d'articles intéressants sur une console qui a beaucoup de succès aux États-Unis. Voilà. La console Next Playground, qui est en termes de vente la troisième console la plus vendue aux États-Unis, derrière la Switch et la PS5. Mais certains m'ont dit dans le chat tout à l'heure, elle n'est pas terrible cette console. D'autres m'ont dit, j'en ai jamais entendu parler. L'année 2026 sera-t-elle celle de la fin du monopole de Sony, Microsoft et Nintendo sur le marché des consoles? Next Playground entend contester cette hégémonie. Ce nouveau venu dans le secteur commercialisé uniquement outre-Atlantique a pris le monde du jeu vidéo par surprise ces dernières semaines. Yarel me dit que c'est une console pour les tout-petits surtout, comme le matériel VTech. Selon le cabinet d'analyse Circana, la console s'est hissée à la troisième place des ventes sur le mois de novembre aux States, derrière la Switch 2, et la PS5 de Sony. Une place qu'elle a ravie aux Xbox Series X et S, désormais reléguée au pied du podium. Dynamisme commercial que la console doit à son positionnement loin des équipements de jeux vidéo traditionnels. Donc on est sur une console un peu différente. Conçue avant tout pour les enfants, tu as raison, et les familles, avec un accent mis sur le jeu actif à plusieurs. Next Playground se distingue aussi par son intégration poussée de l'IA. La console se résume à un cube compact de 76 mm. Ah, c'est pas très gros ça. C'est tout petit. qui dispose d'une caméra intégrée détectant les mouvements du corps sans manette. Ah, il n'y a pas... Ok. Un minimalisme lui permettant d'afficher un tarif attractif. Elle est vendue à moins de $200 au moment du Black Friday. D'accord. Héritière de la Kinect de Microsoft. Le succès de la Playground est aussi fulgurant qu'improbable. Ils en ont vendu, hein. Voilà. En 2 ans, ils en ont vendu 800 000. Voilà. Mais là, l'article n'en dit pas beaucoup plus, et certains dans le chat connaissent bien cette console. Voilà, c'est surtout le prix qui est attractif, me dit Wiggum, pour les petits, pour les enfants, c'est suffisant. Moi, mes petits, ils sont sur Switch, hein. Switch 2, hein. Switch 1, Switch 2. Merci, Jérôme. Ouais. Ça pue le scam. Je sais pas si c'est un scam ou c'est peut-être juste un produit qui est peut-être pas. Je pourrais vous la montrer? De quoi? Ah oui, pardon, la console. Oui, excuse... ouais, j'ai eu peur. Comment t'appelles ça? Next Playground? Next. Non, j'ai eu peur. Ok. À quoi ça ressemble ce truc? Oh là là, ouh, c'est un cube. C'est un truc de Minecraft en fait. C'est un truc de Minecraft. Pardon, vous qui nous écoutez en podcast audio, vous verrez pas, hein. Mais c'est ça en fait, c'est ça là. C'est mignon comme tout. Safe for kids and families. Regardez, il y a des gens comme ça qui bougent, il n'y a pas de... Oh, on joue au basket, c'est mignon comme tout, rien, c'est, ça joue au basket. Ouais, c'est comme... D'accord, il n'y a pas de manette. Oh, ça va casser du vase, hein. Ça va casser du vase, ça va casser du lustre, ça je connais. Hein. C'est chou comme tout. Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais, c'est marrant. Kalina? Ah ouais. C'est marrant. Kalina? Comme une petite Kalinade. Désolé. Bon, faut avoir la ref. Désolé. Désolé. Je suis confus. C'est marrant. Désolé. Bon, désolé. Et bisous à mon ami Katsup que j'adore. Bon, les amis, je vous laisse. Faut que j'aille. J'ai mon rendez-vous de comptabilité là. Je vais exactement comme le dit Mister. Fais attention à toi, Sam, ça glisse. Et je vous renvoie le même conseil. Attention, ça glisse, les amis. Merci, Defecator. Attention sur les trottoirs, attention sur la chaussée, attention en vélo, attention à pied, en voiture. Ça glisse vraiment beaucoup. Moi, vraiment, là, vous êtes beaucoup. Vous êtes des milliers, vous êtes des milliards dans le chat, là. Beaucoup. Et vous allez glisser aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup glissé tout à l'heure. J'ai failli me casser la gueule 3 fois. Donc, prudence, attention à vos os, attention à votre coccyx, attention à tout ça, vous faites pas mal. Chez qui on va alors, faire un raid, puis je vais aller chez mon banquier, là, vite fait. Alors, Twitch. Simon. Il y a Simon qui est en live. Il y a Ponce qui est en live aussi. Il y a Fake Monster qui est en live. Qu'est-ce qui fait que sa flûte, il montre une grosse flûte, Ponce. Quoi, il a sa vieille flûte là. C'est drôle. Il y a Mathieu Burgalassi qui est en live. Il y a Jardy Stream qui est en live. Il y a Bruno Universumu qui est en live. Il y a plein de gens sympas, hein. Anaïs, je l'ai raid il y a un jour ou deux. Il y a Aldé qui est en live. Il y a Aldé qui est en live. Anaïs, je l'ai raid hier ou avant-hier. Allez, vous voulez rester sur de l'actu? Si vous voulez sur l'actu, on va chez Simon, par exemple. Hein? Burgalassi, retour après un mois de décembre difficile. Il a eu un mois difficile. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a eu comme souci? Burial at Sea, c'est très bien aussi. Hein. Les deux sont bons. Hein. Il a eu des soucis, le Mathieu? Dites-moi. Vite, parce que faut que j'aille à mon rendez-vous. Non? Matt, peu de stream? Eh ben, on va lui donner de la force. Ah bah, allez, allez. Ouais, Simon, je l'adore aussi. Hein. Bon, vous allez où vous voulez. Il y a Simon, il y a Mathieu en live, mais je verrai de Mathieu du coup. Hein, si vous me dites qu'il a très peu pu live ces dernières semaines, on va lui donner de la force. Ok? Tu streams ce soir? Ouais, si je trouve la force, ouais. J'ai pas streamé hier soir, ce qui m'arrive jamais, mais faut que je trouve la force. Burga. Ah putain, Burga là-ci, je le trouve pas. Bah. Pourquoi je le trouve pas? Bah Burga là-ci, quoi. Pourquoi je le trouve pas? Ah, c'est Mathieu. Sa chaîne, c'est Mathieu Burga là-ci. C'est Mathieu. Je crois que c'était... Non, c'est Mathieu Burgelassi. Voilà. Très sympa, Mathieu. Aussi un passionné d'actualité. Donnons-lui de la force, parce que certains m'expliquaient qu'il n'a pas pu beaucoup streamer pour des raisons de maladie ces dernières semaines. Les streamers ont besoin de votre force. Vous le savez, ils n'existent que grâce à vous, les streamers et les streameuses. Et c'est grâce à toute la force que vous leur donnez qu'on est là, quoi. Je me dépêche, je vais être en retard. Et puis, je vous dis peut-être ce soir, en tout cas sûrement demain matin pour la revue de presse. Des bisous. Je vous aime. À très vite. Merci pour ce matin. Ciao, ciao.